Coucou les movers et bienvenue dans Movers Podcast épisode 7. Aujourd'hui avec Loïc Dia, un invité que j'ai rencontré physiquement il y a très peu de temps au cours de stage à Lyon. Il a généreusement accueilli le mouvement Nomad Slim dans son établissement, donc une salle de coaching privé, et il m'a permis de connecter avec pas mal de movers de Lyon, des coachs dont il s'occupe. Et voilà, c'était des expériences absolument extraordinaires. Et évidemment, comme à chaque fois, au cours de ces différents stages et entre ces différents stages, on a eu l'occasion de discuter et d'échanger, d'en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Et on a vu évidemment qu'on avait plein de points communs et un intérêt particulier pour le développement de l'être humain sous à peu près tous les aspects. Vous allez le voir avec cette conversation, Loïc, il nous parle de son approche holistique de l'entraînement physique. À quel point il est important d'avoir un coaching personnalisé, un suivi des gens. Il va nous parler aussi de ce qu'il pense être les ennemis ou les petites critiques qu'il pourrait apporter à son industrie avant de partir, comme d'habitude, vers des conversations toujours aussi cosmiques et spirituelles en nous parlant de voyages, de tatouages cosmiques. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, le coaching, le mouvement, l'intérêt de développer tous les aspects de sa physicalité, comment aborder les différents challenges physiques, comment être suivi, les pièges auxquels il faut faire attention. Et si vous êtes aussi toujours passionné de découvertes, de nouvelles cultures, de nouvelles expériences, ce podcast, il va clairement vous plaire. Si vous êtes dans la région de Lyon, sachez que Loïc est sur Lyon et il va pouvoir vous accueillir également dans sa salle. Donc, vous aurez les liens en description de ce podcast. Pour l'heure, je vous laisse profiter d'une belle conversation cosmique avec Loïc Dia. Pour cet épisode de Movers Podcast, épisode 7, c'est parti. Je sens que toi, les micros, t'as pas envie, hein, aujourd'hui.
Ah, mais si.
Oh, mais ça marche, fantastique.
Putain, c'est bon.
Une bonne vingtaine de minutes.
C'est ça.
Comme on aime. Attends, alors, d'explorer les mondes obscurs de l'internet et de l'informatique.
Ah bah moi, ça a été une découverte, hein, le confinement, hein, pour tout ça. Putain, mais c'est le mec qui sort de sa caverne, tu vois, qui se rend compte qu'on peut communiquer autre que par SMS et Facebook, quoi.
Et en plus, c'est pas comme si tu n'étais pas débrouillard et tout, tu vois, tu voyages et tout. Mais moi, je me suis dit. Ça, normalement, Loïc, il l'a, tu vois. Il a maîtrisé ce challenge, mais pas du tout.
Ah, ben, je me challenge sur beaucoup de choses, hein. Mais pas ça. On va dire que je me challenge sur certaines choses, mais quand c'est des choses que j'aime pas, j'ai un peu du mal moi-même à me dire, vas-y, il faut le faire.
Ça, c'est vrai. C'est très vrai. Même la première fois qu'on avait parlé, d'ailleurs, c'est une très, très bonne amorce. D'un premier sujet, d'un premier thème, c'est ce que tu me disais, toi, en fait, depuis tout petit, les choses que tu n'aimes pas faire, tu les as jamais faites. Directement, quoi. Dès l'école.
Bah, clairement. Clairement, ça a été quelque chose qui m'a suivi toute ma vie, tu vois.
C'est comment tu. Parce que c'est. Si tu réfléchis, enfin, toi, tu le sais aussi avec. Avec tes clients et tout, tu le vois au quotidien, tu vois. On en parlera plus tard. Mais c'est très bien que c'est pas quelque chose de facile de se dire, bah, tu sais quoi, je vais d'abord écouter ma propre voix et faire les choses à ma propre manière, tu vois. C'est très, très effrayant. Donc, de ton côté, comment ça, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou ça a toujours été comme ça, un truc assez naturel?
Je pense que ça a été quelque chose de naturel puisque aussi loin que je me souvienne, que ça soit à l'école, que ça soit au sport, déjà, l'autorité, j'avais beaucoup de mal avec ça. Mais on va dire l'autorité agressive, j'avais beaucoup de mal avec ça. Donc, j'étais tout le temps en train de remettre en question les choses, tout le temps en train de discuter, tout le temps en train de marchander. Mais voilà. Mais par contre, quand je reconnaissais la clé de ce dirigeant-là, je prends par exemple mon prof de boxe, il pouvait me demander ce qu'il voulait. C'était lui l'autorité. Et ça, je ne le remettais pas en question, quoi. Donc, ouais, aussi loin que je me souvienne, c'était comme ça. Et après, ça s'est accentué et ça a été de plus en plus présent au cours de ma vie.
Et donc, tu vas dire que la première forme d'autorité à laquelle tu t'es, c'est pas que tu t'es soumis, mais que tu as respecté et que t'as laissé entrer dans ta vie, c'était celle, on va dire, des pratiques comme la boxe, des pratiques martiales.
Ah, clairement. Clairement, bah, mes parents, pour me tenir, parce que les punitions, ça fonctionnait pas, les privations, ça fonctionnait pas. La seule chose, c'était, on me punissait d'aller au sport. Et moi, c'était le seul truc qui me tenait. Et voilà.
Moi, je devais tout finir avant de pouvoir aller au foot quand j'étais petit. Tu vois, c'était, je rentrais, je finissais les devoirs, mais j'étais une machine. Et au final, tellement j'avais peur de pas pouvoir aller au foot que je suis devenu une machine à l'école. Tu sais, je devais finir vite les trucs parce que je voulais soit jouer ou soit aller au foot. Tu vois, donc là, c'est vrai que je sens qu'on a plus peur de perdre quelque chose qu'on a plutôt que de ne pas gagner quelque chose. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ah oui. Ah ouais, tu vois, je m'étais jamais posé la question dans ce sens-là, mais ouais, c'est vraiment cette sensation de si je vais rater mes entraînements, je vais perdre quelque chose, je vais perdre les relations avec les copains, je vais perdre le fait de faire le sport que j'aime, etc. Alors que on va avoir plutôt un côté tiens, vas-y, tu vas avoir des lignes à copier ou t'es puni de sortie. Moi, ça me dérangeait pas.
Oui, ça me fait penser à un... J'avais dit ça, mais c'est une vraie, c'est vraiment quelque chose, c'est dans la psychologie humaine, tu vois. On a toujours peur de perdre quelque chose qu'on a plus que, genre, par exemple, tu sais, ne pas réussir une action, tu vois. Je sais pas, moi, ça me fait penser, tu sais, souvent aux parieurs, tu sais, les mecs dans les casinos qui passent leur journée à parier parce qu'en fait, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont déjà investi, tu vois. Et en fait, c'est ça leur ouais. Mentalité. Un truc méga addictif. Et moi, je sais que dans le sport, c'est exactement ça. J'ai peur de perdre ce que j'ai déjà gagné après toutes ces années-là, tu vois, plutôt que de ne pas réussir à, je sais pas moi, à atteindre quelque chose, parce que je sais que ça va prendre du temps, tu vois ce que je veux dire. Mais cette
idée, ouais.
Alors, si je m'entraîne pas, je vais perdre ce que j'ai gagné, c'est ça qui me perturbe.
Mais tu vois, ça me fait un peu penser aux relations amoureuses et aussi personnelles, c'est-à-dire que souvent, on a peur de perdre quelque chose et c'est ce qui nous freine dans notre capacité à avancer, soit que ça soit avancer dans on va dire, dans l'intensité d'une relation amoureuse ou même dans nos relations personnelles, mais même ça fonctionne aussi pour le pro, quoi. C'est-à-dire que souvent, on a peur de perdre quelque chose et on s'empêche d'avancer à cause de ça.
Toi, tu verrais comment traduit un peu dans le côté pro, parce que moi, ça me fait penser, ouais, à mes élèves, à mes clients que j'avais par le passé et tout. Toi, quand est-ce que tu l'as ressenti, cette idée de « Ah, j'ai plus peur de perdre mon client et donc ça me bloque en fait. » Alors que si j'avais pas cette peur-là, je pourrais oser peut-être oser plus de trucs nouveaux, prendre plus de risques.
Moi, c'est venu à partir du moment où j'ai commencé à avoir une base clientèle solide et avoir des gens qui me suivent partout où je vais, n'importe quelle action que je vais faire, ils vont me suivre, tu vois. Ils vont, par exemple, donner un exemple comme ça, j'ai changé de studio de coaching. Donc toi, tu as connu celui qui est à Lyon 9e, mais moi, il faut savoir, j'ai commencé à Villeurbanne, à l'opposé de Lyon, et en fait, le studio, il a fermé. Et toute ma clientèle, bah, je leur ai dit, de toute façon... Je peux plus continuer, donc je vais dans le 9e. Donc en fait, on a changé totalement de localisation et donc ils m'ont suivi. En fait, c'est à partir de ce moment-là que tu te rends compte que bon, ils m'ont suivi, j'ai eu de la chance, mais que je pouvais perdre eux et donc perdre entre guillemets ma raison d'exister, puisque moi je pense que le coaching est clairement l'activité qui fait que je suis ici sur cette terre, hein, parce que j'apporte tellement et ça m'apporte tellement que sans ce métier-là, ça serait compliqué. Et je pense que c'est venu à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, c'est venu il y a 3-4 ans, quoi.
Et comment, justement, quand tu as fait cette transition-là, quand c'est arrivé, comment est-ce que tu étais certain qu'ils allaient te suivre? ou est-ce que tu avais déjà mis des, par exemple, des processus en place pour les fidéliser au cours des années, ou c'est simplement par surprise, en fait, ils t'ont suivi et tu t'es rendu compte que tu avais un impact sur eux bien plus important que, qu'une liste d'exercices que tu transmets, tu vois. Comment ça s'est fait, en fait? Comment tu penses que tu as cette loyauté?
Bah, déjà, je pense que le coach n'est pas un mec qui donne une liste d'exercices. C'est pas mon approche du coaching. Clairement, si tu as une approche comme cela, ça va fonctionner pour un prof de courco. Il est là, il fait son cours de Zumba, il fait son cours de machin, et puis voilà. Je pense que le coach personnel, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'approche holistique, et c'est quelque chose que je mettais en place déjà depuis un certain nombre d'années. J'ai de la chance, le fait d'avoir eu un parcours martial fait que cette approche mentale et physique, on l'a depuis tout le temps, depuis toujours. Et donc, moi, dans ma façon de coacher, je l'ai mis en place. Donc, j'étais pas que simplement un coach qui donnait des exercices et voilà. J'ai toujours essayé de mettre en place cet accompagnement global, mais aussi d'avoir une communauté, de me dire, voilà, j'ai une vingtaine de personnes qui vont me suivre quoi qu'il se passe. Donc, quand j'ai dû partir précipitamment de là-bas, je savais qu'ils allaient me suivre. Après, combien, je ne savais pas. Ça pouvait être 50%, 60% ou même 30%. J'avais des certitudes, je savais que les gens allaient me suivre, mais je ne savais pas combien allaient me suivre. Parce que c'est un processus qui a été mis en place depuis très longtemps. Comme c'est la petite idée que tu mets et que tu répètes régulièrement pendant plusieurs années, qui fait qu'après, les gens, en fait, se posent même plus la question. Ça en est naturel.
Justement, est-ce que, quand tu disais là, tu savais pas le nombre de clients, d'élèves qui allaient te suivre, est-ce que là, tu t'es rendu compte que c'était justement les plus anciens? Donc, est-ce que tu dirais que ça dépend du temps que tu as passé avec eux, ou c'était au contraire peut-être quelque chose d'encore plus intangible? Tu vois, c'était par exemple, je sais pas, l'intensité de la relation que vous aviez créée, ou bien la transformation que tu as aidé tel ou tel élève à faire, qui a fait qu'il allait te suivre, tu vois.
Bah, c'est ce que tu viens de dire. Hein. Clairement, t'as dit les deux choses qui me sont passées à la part de la tête quand t'as posé la question. Clairement, c'est pas une question de temps, même si le temps aide à fidéliser. Tu vois, moi, j'ai des gens, ça fait 7 ans que je fais ce métier-là. Il y a des gens, ça fait 6 ans que j'ai coach, 6 ans et demi même, qui sont là depuis le début. Donc oui, c'est sûr qu'avec eux, j'ai une relation longue. Mais c'est plutôt l'intensité et l'impact, en fait, que le coaching il a eu sur eux, sur leur vie, et les transformations que ça a engendré derrière, et c'est ça qui est important. Et ça, tu peux le faire. Moi, j'ai, en exemple, j'ai des gens qui, en l'espace d'un mois, j'ai des nénettes, en un mois, elles ont viré leur mec, elles ont arrêté de fumer. Parce que en fait, quand tu discutes, bah, tu te dis, ouais, bah, en fait, le problème, une partie du problème, ça vient de ton mec. C'est ton mec qui fait que tu es stressé, c'est ton mec qui fait que tu fumes comme un pompier, que tu as une alimentation de merde, etc. Bah, on va commencer à la base. Hein. Déjà, change ta relation.
Non, là, c'est marrant parce que quand tu dis ça, moi, je pense. Y a plein de trucs un peu qui me viennent en tête. Je vais essayer d'orienter un peu la conversation là-dessus pour que tu me donnes ton avis. Mais c'est vrai que ouais, t'as cette approche très personnalisée justement du coaching personnel. Tu mets plus l'emphase sur le personnel plutôt que sur les exercices. Et moi, c'est ça que j'adore. Et aussi, tu comprends bah que voilà, c'est peu importe, même si la personne elle vient 3 fois dans la semaine, si elle est mal le reste de la semaine, bah même les efforts que tu vas faire à la salle, ils vont pas être concluants, tu vois. Et tout ça, moi, ça me fait penser, tu vois, à tous mes potes, toutes les relations que j'ai eues ou toutes les conversations que j'ai eues plutôt, où les gens me disaient ouais, j'ai pas envie d'engager un coach personnel, machin, c'est chiant, c'est relou. Moi, je préfère aller à la salle tout seul et on verra ce qui se passe. Qu'est-ce que toi tu dirais à ces gens-là justement, parce qu'ils semblent, moi, j'ai toujours compris qu'ils avaient pas, ils étaient pas à une phase de leur développement dans laquelle ils peuvent percevoir l'importance du coaching personnalisé, du travail personnalisé, tu vois. Donc toi, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui justement ne voient pas encore l'intérêt d'avoir un entraîneur personnel, tu vois?
Bah, déjà, en France, on a quand même pas mal cette image-là, mais ça commence un peu à changer. Avant, le coaching, c'était réservé à l'élite. Clairement, moi, j'ai commencé ça il y a 8 ans, 7-8 ans, le coaching, c'était l'élite, c'était les Bourges, c'était la jet set française qui avait son coach. Après, Moi, quand je suis arrivé, ça commençait juste à se démocratiser, mais vraiment très léger. Et les profils commençaient à être un peu plus différents. C'est-à-dire que moi, par exemple, parmi mes premiers clients, j'avais un menuisier. Le mec, un artisan à son compte, qui était très loin de cette image un peu bling-bling qu'on pouvait avoir. Déjà, au niveau du changement, même si les gens sont encore axés sur ce coach, c'est pas fait pour moi parce que c'est fait pour les riches, c'est fait pour la jet set, ça commence un petit peu à changer. Mais on souffre encore du stéréotype. En gros, le coach sportif, c'est un bodybuilder en débardeur téton apparent, petit legging, et qui vient se mettre derrière les meufs pour les assurer pour les squats et soulever terre.
le solide bodybuilder.
Ouais, voilà quoi. Ouais, non, mais clairement, c'est ça, clairement. Et moi, quand j'ai commencé, par exemple, venant de la boxe, donc sortant de mon parcours de boxe, étant à 62 kilos pour 1m78, clairement, j'avais pas du tout le physique du coach sportif. Et au début, les gens avaient un peu de mal à capter ce physique-là dans le coaching. Maintenant, ça s'est un peu plus démocratisé et donc il y a vraiment tous les physiques pour coach. Mais au début, c'était comme ça. Donc voilà. Donc la première chose, c'est que l'image un peu du coach a changé, mais à la base, c'est vraiment une très mauvaise image. Et deuxième chose, les coachs, on le voit comme étant un coach sportif. Comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui donne des exercices. Et on ne voit pas en fait ce que c'est un coach sportif. Un coach sportif, en fait, pour moi, il y a le coach sportif, le prof de Zumba et le coach personnel. Et clairement, le coach personnel fait la différence parce qu'en fait, la personne, elle n'achète pas des séances de sport. Elle achète un accompagnement. Et c'est sur ce principe-là qu'il faut insister. En France, on n'a pas de mal à aller voir un psy. Ça reste un peu moins tabou que d'aller voir un coach sportif. Le psy, il y en a plein qui sont allés voir un psy. Mais moi, quand quelqu'un va me demander pourquoi, bah, je lui dis c'est facile. En une personne, tu as accès à un coach sportif. Tu as accès à ton père ou ta mère qui va te faire chier tout le temps parce que t'as pas fait ça, etc., etc. Tu vas avoir accès à un confident et tu vas avoir accès à un psy. Et ça, en une personne et en une heure.
C'est vrai que tu joues un peu tous ces rôles-là, que tu as toutes ces casquettes-là. Et nous, bah, tu sais, on vient de ce parcours-là aussi. Tu sais très bien qu'au début, tu commences par des recours collectifs et dès que tu t'intéresses un peu plus à ta pratique, bah, évidemment que tu passes en cours privé. Moi, je prends pas de cours collectifs, mais ça fait moins de 10 ans, tu vois, mais ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus d'un cours collectif, tu vois. Parce que le travail doit être personnalisé à mesure que toi aussi, tu te reconnectes avec toi-même. Tu comprends bien que, bah, je peux pas faire le même exercice que le mec à côté. On n'a pas le même passif, on n'a pas le même corps. Ça marchera pas, tu vois. Et donc c'est vrai que c'est plus facile pour des gens qui ont eu ce parcours-là, ces expériences-là par le passé, de recevoir du coaching personnalisé, de s'y mettre. Et puis, mais après, moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que tu as plusieurs casquettes, tu fais plusieurs choses et que généralement, les transformations que tu apportes, la partie physique, moi, je dirais qu'elle est très faible par rapport à… Il y a le côté émotionnel, les changements que les personnes opèrent dans leur vie par la suite. C'est ça en fait le gros du travail, c'est toutes ces transformations annexes, tu vois. Mais là je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, tu vois, par rapport au coach fitness ou coach un peu plus traditionnel. Qu'est-ce que tu penses justement là de, bah, tu vois, avec les réseaux sociaux, même si je sais que t'es pas trop dessus, etc. Cette image là du coach, elle a grave changé, tu vois. Maintenant t'as plein de petites, je sais pas, des jeunes qui sont coachs sur Insta, tous les coachs sur Insta, etc. Toute cette tendance, cette mouvance des coachs un peu réseaux sociaux. Toi, t'en penses quoi et comment ça impacte ton business?
Bah, comme je t'ai dit, j'ai commencé le coaching où la transition entre le coach élite pour la jet set et pour la population était en train de se faire. Tout doucement, c'était en train de se faire. J'ai commencé, moi, sans réseaux sociaux. Clairement, c'était Internet, le bouche-oreille, voilà. Maintenant, si tu n'as pas de réseaux sociaux dans ce milieu-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour trois raisons. Première raison, bah, n'importe quelle recherche qu'on va faire maintenant, on va le faire à partir du téléphone. Et on va pas forcément chercher sur Google. On va aller regarder un peu ce qui se fait sur Insta et sur Facebook. Donc déjà, quelqu'un va aller chercher ces gens sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, on est beaucoup sur le paraître. C'est-à-dire que voilà, le mec, il a des pecs, des abdos, bah il est coach. La meuf, elle a les abdos et un bon fessier. Et c'est parti, elle est coach aussi. Donc, en termes de qualité d'accompagnement, clairement, on a une dégradation, mais monumentale, ne serait-ce qu'au niveau de la formation des coachs. On est passé d'une formation MBP qui était sur 2 ans avant. Maintenant, on est sur une formation de 8 à 10 mois. C'est pas possible d'avoir une qualité d'enseignement aussi importante et aussi qualitative entre 2 ans et même pas 1 an. Donc voilà ce que j'ai à dire. Par contre, moi, sur mon business, ça ne change pas grand-chose, puisque comme j'ai dit juste avant, c'est le côté qualitatif. Et lorsque quelqu'un va venir regarder un peu ce que je fais, va venir juste discuter avec moi, le côté qualitatif fait clairement la différence.
Justement, c'est quoi un peu les grands axes de ton approche et ce côté qui te rend si unique?
La première chose, déjà, c'est par ma base de diplôme. J'ai pas il y a deux choses en fait. Première chose, je suis pas un sportif de haut niveau, donc j'ai pas été verrouillé dans une pratique sportive. J'ai fait plein de trucs différents, plus ou moins bon niveau, mais voilà. Donc j'ai pas été verrouillé sur une approche. La deuxième chose, c'est mon approche en termes de diplôme. Même si diplôme fait pas la compétence, ça permet quand même de t'ouvrir les yeux. Donc j'ai un master en prépa physique, en prépa mentale et en réathlétisation. Ce qui fait que j'ai 3 axes par ma pratique universitaire. Et après, c'est ce côté holistique. Donc cette approche physique, cette approche mentale de l'être humain dans sa globalité. Et ça, il y en a beaucoup qui vont faire que le physique, soit que le mental. Moi, je vais apporter en fait les deux en même temps. Et c'est ça qui fait clairement la différence. Et maintenant, j'ai même poussé encore plus loin cette approche-là, puisque je suis en train de me former à la posturologie, qui est, on va dire, une pratique à la limite entre la kinésithérapie, l'ostéopathie et la pratique sportive, qui est une compréhension de l'équilibre de l'être humain dans sa globalité.
Pas nécessairement que des, comme le nom pourrait l'indiquer, que des postures physiques, se tenir droit, etc.
Il y a aussi... Non, en fait, c'est une approche médicale de la chose, sauf que le problème de notre médecine, c'est qu'on est dans une médecine curative. J'ai un problème, j'ai mal, je vais voir le médecin, il me donne des anti-inflammatoires, à la limite, je vais faire un peu de rééduction kiné, et puis voilà. Mais 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, ça va revenir. Je vais revoir le médecin, anti-inflammatoire, anti-douleur, un peu de rééduc, et voilà. Et ça continue, la boucle continue comme ça. Et en plus, on va avoir des compensations qui vont se mettre en place, etc., etc. Nous, en posturologie, en fait, on va aller à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la cause. Pourquoi cette personne-là, elle a une douleur? Qu'est-ce qui fait qu'elle a une douleur? La cause de la cause de la cause. L'ostéopathie, malgré ce qu'on croit, est une médecine de traitement. C'est une médecine de symptômes. C'est-à-dire qu'elle va aller réparer les problèmes, mais toujours ce symptôme-là. J'ai le dos qui est bloqué, tac, elle va te redébloquer le dos, mais elle va dire, tiens, la colonne vertébrale n'était pas droite, je vais la réaligner, etc. Mais on ne sait pas, elle est où la cause? Pourquoi cette personne-là a mal au dos? Nous, en posturo, c'est ce qu'on va faire. On va aller chercher les causes en travaillant sur ce qu'on appelle les entrées posturales. En gros, c'est là où tu viens pas prendre les informations. Donc, les pieds, les yeux, la mâchoire, la peau, etc.
Justement, là, dans cette idée-là d'essayer de trouver les causes, on va dire, plus profondes, toi, tu mentionnes la médecine un peu, notre médecine à nous, notre médecine occidentale, tu vois. Est-ce que, justement, là, cette idée posturologie, elle viendrait pas de... Moi, ça me fait penser à une médecine un peu plus asiatique, quoi, médecine orientale, tu vois. Ça vient d'où, ce truc-là?
Ah, clairement, c'est moi, ça me fait penser à ça. En Asie, en Chine, tu ne vas pas voir ton médecin parce que tu es en mauvaise santé, tu vas voir ton médecin de façon préventive pour qu'il t'aide à améliorer ton quotidien. Donc, il va t'aider à améliorer ton quotidien, et en améliorant ton quotidien, il va retarder l'apparition des symptômes et il va te permettre d'aller mieux et d'être mieux. Et en fait, la formation que j'ai fait passer, ça vient d'un chirurgien orthopédique qui en avait marre d'opérer les gars, il en avait marre les opérer. Et à un moment donné, il s'est posé la question, pourquoi ? Pourquoi les gens que j'opère, je les revois 5 ans, 10 ans après ? Ce mec-là, il est parti faire une formation, et cette formation a intégré une formation, qui a intégré une formation, il a intégré une formation, et résultat, donc c'est la formation que je suis en train de passer, c'est 30 ans d'expérience dans son domaine-là, entre le médical et, on va dire, du paramédical, des choses un peu qui vont paraître peut-être un peu perchées et un peu tordues pour certains, mais voilà, on va intégrer des aimants, on va intégrer des réflexes archaïques, on va intégrer plein de choses, mais qui sont un peu étranges, voire stupides pour les gens qui sont dans la médecine traditionnelle, la médecine, notre médecine à nous.
Comment toi, de ton côté, comment tu amènes, je sais pas, tes clients à... Est-ce que tu as des profils qui s'intéressent à ça, ou toi, avec ton coaching, tu dirais que justement, tu les ouvres de plus en plus à des choses qui semblent être un peu plus saines, tu vois. En tout cas, ce que toi, tu penses être sain.
Tu vois, c'est assez marrant parce que suivant les gens que tu vas avoir en coaching, tu vas vraiment avoir deux approches totalement différentes. Ce qui est assez amusant, c'est que les gens dans le coaching, donc tous ceux qui sont de la profession, cadre supérieur, médecin, etc., eh ben, eux ne jurent que par cette pratique. Boum, anti-inflammatoire, cortisone, boum, j'ai plus mal et c'est fini. Alors qu'on pourrait croire que c'est l'inverse, on pourrait croire que c'est des gens qui ont fait des études, donc qui ont une capacité à dire un peu plus, avoir les consciences éveillées. Eh ben, pas du tout. Et moi, les gens que j'arrive vraiment à avoir un impact sur eux, c'est des gens qui vont te laisser la chance de t'expliquer, te laisser la chance de leur apporter des preuves pour leur bien-être. Et donc par conséquence, tu vas les amener à changer. C'est-à-dire que tu vas lui dire, bah voilà, t'as des douleurs, ok, bon, t'as mal. Alors, anti-inflammatoire. Le problème, c'est que si tu vas prendre ton anti-inflammatoire, par exemple, tu vas devoir prendre un pansement gastrique. Ok, pansement gastrique, ok. Alors, tu vas peut-être avoir un problème avec ton pansement gastrique parce que derrière, tu vas peut-être avoir des problèmes au niveau de terrain. Alors, tu vas prendre un pain. Tu vas dire, stop, on va sortir un peu de tout cela. Et moi, je vais te proposer peut-être une petite recette de grand-mère pour avoir anti-inflammatoire, mais qui ne va pas engendrer toute cette cascade de conséquences derrière. Ah, bah,
tu vois, moi, c'est ce que j'essaie aussi de partager au mieux, tu vois, à travers déjà ma pratique, de se dire, bah regarde, si tu arrives déjà à fixer pas mal de choses tout seul à la maison, bah, c'est qu'il y a il y a plein d'autres choses que tu peux fixer, tu vois, notamment quand tu as des rhumes, quand tu as des trucs comme ça, il n'y a pas besoin d'aller directement, comme tu disais, aller chercher le mec qui va te vendre un cacheton, tu vois. Et là, justement, en temps de Covid en particulier, pour moi, c'était ça que ça a permis de révéler. Et pourtant, toi, je faisais une story hier, c'est marrant, où je disais, voilà, ils bloquent, ils empêchent, c'est l'ouverture des salles, de tout ce dont on parle, en fait, tout ce qui est censé être le bien-être du corps, de l'esprit, du cœur. Et pourtant, ils vendent en promotion des paquets de Marlboro et des paquets de Winston. Tu vois. Et donc, tu te dis, même en ces temps-là de Covid, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une sorte d'éveil, d'éveil général des consciences vers, ici, je prenais un peu mieux soin de moi. Ou bien si j'essayais de regarder, bah voilà, toutes les choses, tu vois. Ok, j'ai mal au dos, mais ça se trouve, c'est pas du tout un truc de posture. Ça se trouve, c'est mon alimentation qui me fait une infection, je sais pas où, et ça gonfle là dans le bas du dos, j'en sais rien, tu vois. Et donc, ouais, en temps de Covid, même le Covid n'a pas réussi à faire changer les mentalités, tu vois. Donc, toi, t'en es où un peu dans cette quête?
Bah, en fait, ça m'étonne pas ce que tu dis. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé, tu vois, j'en ai parlé hier avec un collègue. Et je disais, comment veux-tu changer des mentalités quand ça fait 5, 10, 15, 20 ou 30 ans qu'on te répète tout le temps la même chose? À cela, on vient de créer des putains de troubles au niveau de ta production hormonale. Donc, que ce soit la clope, que ce soit l'alcool, etc., etc. Comment veux-tu arriver à faire changer des gens en l'espace de 6 mois, même si c'est la chose la plus ouf qui soit passée depuis très longtemps au niveau mondial? Les gens ne changeront pas, mais parce que les gens ont un voile au niveau des yeux, mais pour moi c'est un voile hormonal et un voile psychologique qui font qu'ils ne changeront pas. Ou alors, il faut qu'il y ait quelqu'un comme toi, comme moi, qui leur fasse et qui leur explique leurs 4 vérités, et vraiment de façon très crue. Pour moi, de toute façon, il n'y a que ça qui fonctionne. Et à partir de ce moment-là, les gens vont se mettre à changer. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que tu veux que les gens y changent? D'un côté, on va te dire, OK, mettez-vous au sport, il faut bouger, les JO 2024, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens? On ferme toutes les structures de sport, on ferme toutes les activités, vous n'avez le droit de faire que du vélo à 1 km autour de chez vous, de sortir, de marcher. Et voilà. Mais par contre, vous aurez le droit d'aller dans votre supermarché acheter votre bouffe de merde, parce que de toute façon, vous êtes tellement déprimé que vous allez faire que bouffer et vous caler devant Netflix. Et aliénation de l'esprit. Et voilà. Et après, les gens sont des petits moutons.
Ouais. Je fais au mieux pour essayer d'apporter ma petite dose de joie et de positivité. Mais c'est vrai que là, le tableau que tu nous dépeins, il est malheureusement, on ne peut plus vrai, tu vois. Mais après, il y a ça aussi, il y a le truc, soit on décide de le voir comme ça, ou évidemment, on se concentre sur les quelques cas qui, justement, ont profité de cette période-là pour faire des changements. Je sais bien, tu vois, c'est une histoire de perspective, mais c'est vrai qu'il semble qu'il y a une majorité de gens pour lesquels, en fait, leur train de vie, c'est ça, tu vois. Et à ça, justement, c'est vrai que c'est très, très difficile de trouver une solution à ça, ou bien de trouver un moyen d'aider les gens au mieux, tu vois. Toi, tu penses quoi de tout ce qui est tu sais, coaching, enfin pas coaching, mais là tout ce qu'on voit un peu sur les réseaux, même moi j'en ai fait, tu vois, des entraînements live, etc. Même si dans mon cas c'est vraiment c'est pas du tout un truc, tu sais, régulier, c'est plutôt des formations en live, tu vois. Mais tu sais, moi je vois tous les gens se mettre à faire des lives, faire des pompes et des burpees, je sais pas, il y a des gens qui suivent ça. Et je sais pas, moi, perso, je sais même pas quoi en penser, tu vois, mais ça m'intéresserait d'avoir ton avis, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est efficace? Est-ce que tu penses que c'est utile? Qu'est-ce que tu penses de tous ces délires-là, de live et de...
En fait, moi, j'ai envie de dire, à la base, c'est une super idée. Et clairement, moi, s'il y avait quelqu'un que je devrais remercier de ce domaine-là, pourtant, je suis pas fan de ce qu'il fait, c'est Timbo InShape. Ce mec-là, il a 3,5 millions de personnes qui le suivent sur YouTube. On va dire 4 millions. Le mec, il a quoi? Il a peut-être 2% de la population française qui le suit. C'est la personne qui est le plus suivie. Mais c'est trop bien. Ce gars-là, en fait, à la base, il te dit « Arrête de bouffer de la merde, bouge ton cul, fais du sport, va courir, va faire des... la muscu, va faire du crossfit, va faire de la bouche, va te bouger, etc. Mais c'est trop bien. Et moi, je sais pas si tu te rappelles, mais il n'y avait pas de gens comme ça à notre époque. Les gens qu'on allait suivre, qu'on suivait, moi, c'était les gars de la boxe thaï, c'était Ramon Decker, c'était Didier Diafa, etc. Mais on n'avait pas de mecs qui étaient proches de nous, qui avaient notre langage et qui nous parlaient directement. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Sur l'intention. L'intention, c'est super louable. Dire aux gens, OK, on se bouge, OK, on est dynamique, OK, etc., etc. Et il faut le faire. Et c'est ce que je fais. C'est-à-dire que malgré le portrait très suicide social d'Orelsan que j'ai fait du Covid, je suis pas du tout comme ça, en fait, dans la vie. C'est juste que je parle et je dis les choses telles qu'elles sont. Mais ça fait tellement bouger les gens, ça fait tellement, permettre aux gens l'accessibilité au mouvement et l'accessibilité à la pratique sportive, au fitness, etc. Donc, c'est une super chose. Donc ça, sur l'idée, et moi, je suis complètement ravi et complètement content que ça fasse bouger. Le problème, comme souvent, c'est dans la réalisation. Et ça, c'est des choses que j'avais beaucoup parlé pendant le premier confinement. C'est-à-dire que y a des dizaines, des centaines, voire des milliers de coachs qui sont sortis, on ne sait pas trop d'où, qui font des cours, mais d'une qualité, mais aïe, 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 mais tu dois voir les trucs, mais c'est tellement mal fait, que ça soit techniquement, que ce soit en termes d'intensité, que ce soit même en termes de promesses. Ouais, faites notre challenge pendant 30 jours, vous allez perdre tant de poids, vous allez gagner tant de centimètres de tour de bras, etc., etc. Et on va se retrouver avec des gens qui, dans 2-3 mois, vont se blesser, n'auront pas les objectifs qu'on leur a promis, la perte de poids, tout ce que tu veux, etc. Et résultat, ils vont se retrouver, c'est bon, ça sert à rien, le sport, hein, j'ai fait ça pendant le confinement, et hop, il va retomber dans ses habitudes parce qu'il n'a pas eu l'effet escompté derrière. Donc pour moi, dans l'idée, c'est super bien, et il faut vraiment apporter ce discours-là. Le problème, c'est la réalisation. Et dans la réalisation, là, il y a beaucoup de travail à faire.
Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, comment dire, c'est l'effet genre double tranchant. C'est vrai que ça a l'air pas mal sur le papier, mais au final, comme tu dis, sur le long terme, ça paye pas parce que, encore une fois, les gens, soit ils ont pas cet accompagnement ou soit ils ont pas d'eux-mêmes ces expériences qui vont leur permettre, tu sais, de révéler le grand pourquoi derrière la pratique physique, tu vois, au lieu de simplement suivre des challenges et une succession de challenges. Moi, cette histoire de challenge, personnellement, j'aime pas du tout, tu vois. J'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent, par exemple, qu'ils ont fait le challenge de squat, là, 30 jours de squat, là, Dido, tu vois, Dido Portal, un de mes mecs. Moi, quand je les vois, je leur dis, mais putain, mais ce challenge-là, il faut pas le faire. C'est l'horreur, ce truc-là. Mais pour 99% des gens, en tout cas des Occidentaux, mais ce truc-là, il est à jeter parce que vous allez vous flinguer les hanches, les genoux, les orteils, les chevilles, tu vois. Mais encore une fois, c'est comme ce que tu disais avec les lives, tu vois, les gens, ils se disent, moi, je le fais et on verra ce que ça donne, tu vois. Alors, évidemment, comme c'est pas une approche personnalisée pour ton corps, et que tu n'adresses pas des choses qui sont pour ton niveau, tu as deux choses. Un, tu as une légère progression parce qu'évidemment, tu pars de zéro. Tu vois, donc, c'est sûr que tu vois, si tu cours, même ne serait-ce que marcher 2 heures par jour, évidemment que tu vas perdre 100 grammes. Donc après, tu vas dire, ah bah voilà, marcher, ça marche. Non, mais c'est juste que tu démarres de tellement loin que là, à ce niveau-là, tu peux faire n'importe quoi, secouer les bras toute la journée, tu vas perdre du poids. Tu vois. Et bah là, c'est pareil en fait avec ce challenge-là. Tu vois, c'est qu'évidemment, si tu t'assois jamais dans cette position, ne serait-ce que de la tenter pendant 30 jours, évidemment que tu vas avoir des résultats, tu vois. Mais encore une fois, comme c'est pas une approche qui est pour toi, on a le même cas, le même effet secondaire que ce que tu dis, c'est que voilà, 2-3 mois plus tard, tu vas te blesser parce que si ça se trouve en faisant cette position-là, tu as créé des nouvelles dissymétries, des nouvelles déficiences et tu t'es encore plus flingué là où tu avais déjà des faiblesses, tu vois. Et donc c'est exactement le même truc là avec tous ces trucs en live, etc. C'est que les gens, en tout cas moi de ce que je vois, comme tu dis, ils commencent un peu, après, il n'y a plus personne pour leur tenir la main, donc ils arrêtent. Et comme ils n'ont pas une raison plus profonde que simplement suivre la tendance, eh bien, évidemment que c'est dur de maintenir ta motivation quand tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu vois, et que tu suis simplement la foule. Et deuxièmement, comme tu dis, après, derrière, quand les salles elles sont réouvertes ou quand ils vont te voir toi, tu as encore plus de trucs à corriger parce que maintenant, ils ont pris plein de sales habitudes, tu vois. Et donc, c'est plus dommageable pour leur corps qu'au final, c'est bénéfique, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est un peu dommage, tu vois. Donc toi, justement, à ça, comment tu arrives à... Ça, évidemment que ça a un gros impact sur ce que tu fais, tu vois, la situation de confinement, etc. Mais comment tu arrives justement à tourner ça en positif et à quand même délivrer de la valeur à tes clients?
Déjà, pour commencer, pour revenir sur ces situations-là, pour te dire qu'il y a quand même... Il y a quand même un souci. Alors, je ne sais pas si c'est... En France, on est quand même pas mal à la rue au niveau sportif. Il y a quand même notre CEO de notre centre qui nous disait qu'elle a eu des gens qui sont venus la voir en consultation d'ostéo parce que les mecs se sont brûlés le corps, les jambes, parce que les gars, ils allaient faire du jogging tous les jours en pantalon. Non. En jean. Parce que les gars, ils étaient... tellement pas habitué, mais quand elle m'a dit ça, mais moi j'ai brillé. J'ai dit non, mais ils sont sérieux. Pour te dire qu'on n'est mais clairement pas éduqué physiquement. Et c'est ça le problème. C'est même pas une question de performance, là. Putain, mais qu'est-ce que tu vas mettre un jean pour aller courir, quoi? J'ai bien entendu ça. Ah ouais, non. Donc, voilà. Donc ça, c'était la petite aparté là-dessus pour montrer qu'on est vraiment... On part de très très loin sur l'éducation physique. Moi, comment je fonctionne là-dessus? En fait, tout simplement, déjà, les gens qui vont avoir affaire à moi, ma clientèle et tout ça, déjà, ils vont avoir en face d'eux quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui est ultra positif, quelqu'un qui ne s'arrête jamais, qui est une boule d'énergie. Et donc déjà, ça va les rassurer parce que la plupart des gens qu'ils vont rencontrer, soit ils font la gueule, soit ils font la gueule, soit ils font la gueule, mais avec un masque.
Exactement.
Voilà. Donc, quand tu as quelqu'un qui est souriant, quand tu as quelqu'un qui est dynamique, quand tu as quelqu'un qui t'apporte du positif dans ta journée là-dessus, donc déjà, voilà, c'est positif. La deuxième chose, c'est le suivi, tout simplement. Il faut suivre les gens, il faut les bichonner. Quelqu'un, moi, qui ne va pas bien, je lui dis, tu m'envoies un texto, tu ne vas pas bien, on prend 5 minutes, je t'appelle au téléphone derrière, juste 5 minutes. Moi, 5 minutes, ça ne va rien changer dans ma vie. Par contre, 5 minutes pour cette personne-là, ça peut changer énormément. Et le problème, c'est que on était déjà à la base une société individualiste. Maintenant, on est devenu une société individualiste, ultra individualiste, et en plus, sans aucun contact humain. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est de remettre l'humain au centre des attentions. Et un des problèmes de tous ces lives, c'est que l'humain n'est plus au centre de l'attention, puisque tu ne suis ton cours de sport que face à un écran, tu n'as pas d'interaction avec les personnes. Donc clairement, pour moi, tous les métiers de coaching, le coaching, ça veut dire accompagnement, et ben c'est là que ça fait la différence. Il faut accompagner les gens, il faut les accompagner. Prendre 5 minutes par jour, ne serait-ce que pour chaque personne, 5 minutes, mais ça fait clairement une différence. Et pourtant, pour nous, ça ne va pas changer grand-chose.
Il y a tellement de personnes qui ne font pas ça. Là, je reviens de Zurich, j'étais avec une amie là qui, elle aussi, elle est... personnel trainer, tu vois. Et c'est ce qu'elle me disait. Elle a une rétention un peu comme toi. Genre, les gens, ils restent avec elle pendant 6 ans, tu vois. Et je lui disais, mais attends, mais tu te rends pas compte du. Parce qu'elle, elle s'en rendait. Enfin, elle le sait. Elle est consciente de cet apport-là, un peu comme toi, tu le décris. Mais des fois, c'est dur. Comme tu as la tête dans le guidon et que toi aussi, des fois, tu subis un peu le stress, justement, d'organiser tous les coachings, tous les trucs comme ça, te rappeler qui a dit quoi, etc. C'est évidemment, ça peut être assez, assez stressant, tu vois. Et des fois, tu t'en rends pas compte de ce pouvoir-là. Que tu as sur les gens, cet impact-là. Et comme tu dis, tu peux toi aussi te laisser partir en fait dans quelque chose de négatif et dire « Putain, j'ai eu 6 personnes aujourd'hui, ils m'ont tous plombé avec leur énergie négative, tu vois. » Alors que toi, comme tu dis, c'est 5 minutes que tu prends pour quelqu'un, lui, ça le redonne du boost. Et en fait, toi, cette bonne action, elle te redonne du boost, tu vois. Et c'est vrai que tu vois vite fait la différence entre les gens qui mettent vraiment, comme tu dis, de l'humain, ils mettent vraiment une partie d'eux dans leur interaction avec leur client. Et ceux que tu vois, masque ou pas masque, ils tirent la tronche, ils sont juste assis à côté, ils te regardent faire des pompes, ils voient très bien que tu galères et tout, et ils te disent pas spécialement de conseils, et ils sont juste là, ils font leurs heures, tu vois, ils pointent, quoi. Et, enfin, tu le sens direct, même au niveau des énergies, tu vois, tu rentres dans une salle, tu sens quand les gens, ils sont comme ça, tu vois. Et moi, c'est ça que j'avais aimé, quand j'étais venu te voir à Lyon. C'était, tu rentres, les gens, ils font de la bagarre, ils font les singes, ils sont accrochés au bar, ça rigole, ça joue, tu vois. Et c'est vrai que malheureusement, l'outil informatique ne permet pas encore de faire ça, tu vois. Alors peut-être avec les hologrammes, on verra, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On attendra nos amis du Japon pour qu'ils nous développent ce type de choses-là. Mais c'est cool. Moi, je le ressens beaucoup, même on en parlait quand j'étais à Lyon. Il y a tout ce côté, en fait, ça demande énormément d'énergie de donner quelque chose en physique. Et les gens qui ne font pas des métiers où ils ont ça et qui viennent, par exemple, prendre un coaching, tu sais, ils viennent et ils ne se rendent pas compte qu'ils prennent quelque chose de toi, en fait. Ils t'absorbent une partie de toi, une partie de ton énergie. Et il y a beaucoup de gens, pour eux, c'est une normalité, tu vois. Parce que eux, dans leur métier, peut-être qu'ils font un métier, par exemple, ils sont derrière un ordinateur et ils ne sentent pas cet impact énergétique de « putain, ça me plombe ». Et moi, comme je te disais, tu m'as vu, tu vois, à la fin des… à la fin des stages, genre, je suis plus rien, je suis une momie. Je suis éteint, quoi. Tellement tu donnes de la positivité, de l'énergie. Et c'est vrai que ça, malheureusement, les lives, il n'y a pas encore le moyen de, ouais, de corriger ça ou d'aider ça, tu vois. Et toi, c'est vrai que tu utilises beaucoup, moi, j'ai remarqué, le téléphone, les SMS, etc. Et bizarrement, à mesure que les progrès technologiques, ils avancent, moi, je me rends compte qu'en fait, ça, ça n'a pas de prix. C'est 10 fois mieux, en fait, un coup de téléphone, entendre la voix de la personne. Tu vois, bizarrement, plus qu'un live, où là, tu te dis, bah, je vois la personne, je la vois transpirer et tout, mais je le sens tellement comme quelque chose d'impersonnel, tu vois, les lives. Là où si je t'appelle, eh ben ouais, en fait, là, j'arrive à ressentir un peu cette énergie, tu vois. Et toi, comment tu sens justement ce truc-là, ta communication avec les gens quand ils sont pas avec toi, c'est là, tu ressens que ça fait partie quand même intégrante du service?
Ah ben clairement, on en revient à la base. Notre métier, c'est du coaching. Le coaching, c'est de l'accompagnement. Donc la personne, elle doit se sentir accompagnée. Moi, quand c'est un des trucs que je dis, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un texto, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Donc oui, c'est sûr que en termes de d'investissement, bah ouais. Et moi, il y a des fois, il y a des soirs, je suis éteint, alors que clairement, j'ai rien fait. Enfin, si tu prends, bah ouais, tu dis, bah t'as donné des ordres, bah ouais, en gros, ouais, c'est ça, j'ai donné des ordres. Vas-y, fais ça, je te corrige, etc. Mais t'as envie de dire, quand tu es avec ton moniteur d'auto-école et que le mec il te dit, je suis vidé en fin de journée. Bah ouais, il a rien fait. C'est sûr que c'est pas un mec de chantier qui empile des parpaings ou qui pose du carrelage, c'est sûr. Mais en fait, c'est une fatigue dans laquelle tu donnes tellement de toi. Et comme tu dis, tu donnes une petite partie de toi à chaque cours, sauf que quand tu fais 5 ou 10 cours dans la journée, bah, la petite partie, elle fait grosse partie. Donc, ça, il faut apprendre à bien gérer au niveau de ce que tu donnes. Et tu as des gens qui vont t'apporter de l'énergie pendant les séances. Donc, tu te nourris en plus de leur énergie positive. Et dans la dot, par contre, qui vont t'épuiser. Donc, après, il faut arriver à trouver le juste milieu. Et pour moi, lorsque tu appelles quelqu'un, lorsque tu as quelqu'un au téléphone, c'est un peu comme avant lorsque tu devais écrire une lettre. C'est-à-dire... bon, ça fait très longtemps d'ailleurs que je n'ai pas écrit une lettre. Ça fait très, très longtemps. en fait, c'est une action. C'est-à-dire que tu enclenches une action et tu t'investis toi-même dans l'action. Tu mets ton cerveau, soit tu composes du numéro, soit tu tiens le téléphone, etc., etc. Et en fait, tu as une action où tu vas te poser peut-être, au lieu d'être assis ou de courir, etc., tu vas peut-être te poser un peu, tu vas arrêter, tu vas parler avec la personne. Et en fait, ce qui va faire la différence, c'est d'avoir une action physique avec ton contact. Lorsque tu fais un live, pour une, pour deux, pour 10, pour 100 personnes, mais tu n'as pas une action physique spécifiquement pour une personne. Et comme je t'ai dit, on était dans un monde hyper individualiste, hyper renfermé maintenant sans contact humain. Ce que la personne va apprécier, c'est que tu prennes du temps pour elle. C'est vraiment, tu es focus sur elle. Tu écoutes ce qu'elle te dit. Un truc de ouf. Écouter la personne, c'est pas l'entendre, c'est l'écouter. Et quand tu lui rappelles un truc qu'elle t'a dit 10 minutes avant, genre, mais tu m'écoutais ? Bah oui, je t'écoutais. Et tu vois, rien que ça, ça fait une diff énorme.
Justement, là, avec tout ce que tu dis, c'est clairement pas ce qu'on en entend et malheureusement, ce qui n'est pas promu la plupart du temps, même là, avec les réseaux sociaux, avec les YouTube, etc. Bah toi, justement, de ton côté, dans ton business et ton approche, comment tu vois l'évolution, tu vois, vers le futur? Est-ce que tu as des idées, tu as des pistes? Quel type de projet tu vas faire évoluer pour continuer un peu dans cette idée d'une qualité de service beaucoup plus accrue, tu vois?
Bah, nous, par exemple, avec les praticiens de la salle, on a l'idée de faire une application de coaching. Alors, on va dire, ouais, une application en plus, etc. Sauf qu'en fait, nous, on veut une application personnalisée. Et quand je dis personnalisée, c'est qu'elle soit vraiment personnalisée. Alors, c'est sûr que le programme, on va pas te demander 10 euros. Hein. Mais on veut pouvoir toucher beaucoup plus de personnes et on veut pouvoir donc rendre cette approche coaching, mais aussi diététique et toujours avec cette approche personnelle, c'est-à-dire que ça sera de la diététique avec une diététicienne diplômée d'État et pas un vendeur de je sais pas quoi, en mettant un maximum d'informations dans cette appli qui va permettre, nous, de derrière, lui sortir, entre guillemets, un programme qui va être adapté à elle. Tu vois, les plus gros influenceurs dans le fitness, ils sortent tous des programmes comme ça. Moi, je suis allé les voir. On a pris le programme le moins cher, le programme le plus cher. On a pris un programme à 30 euros et on a pris un programme à 300 euros. Programme à 30 euros, en gros, je vais sur Internet, je prends des menus de repas un peu sympas qui sont visuellement très beaux. Je te l'imprime, je te l'envoie et ça fait la même chose. Par contre, c'est super beau, c'est sexy. Tu vois, à 30 euros, c'est sexy. À 300 euros, le programme, putain, franchement, pour se l'approprier, c'était vraiment coton. Il était très intense, très dense en information, mais par contre, c'était compliqué, quoi. Et en fait, on a dit, nous, on veut les deux. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose qui soit facile en main, de prise en main, qu'on peut naviguer dessus facilement, etc. Mais par contre, qu'il soit rempli d'informations, mais des informations qui soient utiles. Ouais. Résultat, la personne va venir te voir et elle sait que son programme, elle est adaptée à elle, pas à son voisin, à elle. Et toujours avec le même principe de s'il y a un souci, il y a l'accompagnement.
Ok, je vois. Ouais, c'est vrai que c'est...
Ouais.
Parce que tu me fais beaucoup penser, bah ouais, un peu l'approche américaine. Tu vois, les Américains, ils sont très là-dedans dans vendre et dans faire des trucs, c'est pour tout le monde. Et tu mets un gros coup d'argent derrière, un gros sponsor, et boum, tu vends à des milliards de personnes, tu vois. Et moi, je trouve qu'on a, après, je sais pas, c'est peut-être que mon point de vue, comme moi, je suis pas beaucoup en France, je suis pas physiquement dans les salles avec les gens, donc c'est peut-être totalement erroné. Hein, tu me diras ce que t'en penses. Mais j'ai l'impression que surtout les jeunes, ils s'orientent de plus en plus un peu vers cette approche à l'américaine de si je commence à faire une transformation sur mon corps, ça va être pour ressembler à quelqu'un au lieu de ce que nous, on pourrait appeler une transformation générale, holistique, de me sentir bien moi-même dans mon corps, tu vois. J'ai l'impression que les gens regardent les influenceurs, etc. et se disent, je veux ressembler à cette personne, donc je vais prendre le programme de cette personne dans l'idée d'être comme lui, tu vois. Mais j'entends pas des gens. Moi, je veux être comme moi. Moi, je veux pas être comme les gens. Je m'en fous des gens. Tu vois, je veux être comme moi. Tu vois, comme j'ai envie d'être. Tu vois. Et ça, c'est vrai que moi, quand toi, tu me parles de cet accompagnement, de cette approche-là, moi, évidemment, ça résonne avec ce que je pense. Tu vois. Mais là, c'est vrai que dans la partie en ligne, pour l'instant, j'ai pas encore vu quelque chose qui pourrait ressembler à ouais, viens, si on aide les gens à être eux-mêmes. Tu vois.
C'est ça en fait. Mais tu as clairement raison là-dessus. Sur ce côté des jeunes, c'est en fait, nous, à la base, on faisait du sport. Mais tu allais taper un foot avec tes collègues. Moi, je viens de la campagne, donc j'allais dans la forêt, on allait construire des cabanes. Derrière, on allait faire un foot. Derrière, on allait, je sais pas, moi, couper un arbre. On bougeait, quoi. Bouger. Maintenant, non, c'est plus le cas. Maintenant, c'est je veux faire de la muscu pour ressembler à tel ou tel influenceur. Et donc, il y a ce côté d'image. Merci, génération Instagram. Et en fait, les gens, ils savent que c'est pété. Ils savent que c'est. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'ils savent. Et ils vont faire ça pour ressembler à leurs influenceurs. Et ils vont. On les identifier sur une story, ils vont les identifier sur un post parce qu'ils vont croiser les doigts pour qu'ils se fassent repartager par ces personnes-là, que cette personne-là mette un petit like ou un petit truc et l'autre il est refait. Mais t'es refait de quoi, mec? Ces personnes, ce gars-là, c'est, tu vois, et moi ça me rend mais complètement dingue. Tu te dis, en fait, il y a des gens qui vont, ils vont juste acheter ce truc-là, dire bon, tiens, je vais peut-être ressembler à mon idole. Mais ton idole, c'est quoi? C'est un mec qui est torse nu et qui se prend en photo. Ou alors c'est une meuf qui paye son cul tous les jours en photo sur Insta. En quoi c'est ton idole?
Non, mais c'est vrai que là, ce que tu dis, tu vois, moi, par exemple, moi, j'ai commencé Insta genre il y a moins de 3 ans, tu vois. Et avant ça, bah, j'ai jamais eu Insta, quoi. J'ai jamais eu Facebook, j'ai jamais eu toutes mes carrières, toutes mes aventures dans tous les pays. Bah, je les ai faites pour moi, tu vois. J'ai jamais pris aucune photo, je m'en foutais, quoi, tu vois. Et c'est vrai que là, maintenant, t'as des gens, ils font leur premier cours de, je sais pas, de boxe, ils vont prendre 50 000 photos, tu vois. Ils auront plus de photos sur leur seul cours de boxe de l'année que moi, j'en ai eu en 8 ans de carrière professionnelle, tu vois. Et tu dis, mais pour qui vous faites ça et pourquoi vous faites ça, tu vois? Et c'est ça pour moi que j'arrive, que j'ai beaucoup de mal à partager. Et c'est aussi une des choses qui me, des fois, bah, c'est un peu, ça m'énerve, tu vois, quand j'entends des gens parler de sport ou de leur relation au corps, tu vois, je me dis, mais attends, je dis pas que c'est la seule manière de voir les choses, mais je dis qu'il y a cette manière-là aussi. Et c'est vrai que cette manière-là, elle semble plus fun, tu vois, c'est plus marrant de faire les choses pour toi et d'aller à la recherche de compétences, d'aller à la recherche d'amusement, de plaisir, de ressenti. Et justement, de ne pas attendre d'avoir vraiment un gros traumatisme, genre, je sais pas, tu as un accident de voiture et on doit t'amputer la jambe pour te rendre compte que ouais, tu aurais dû passer tes années à essayer de faire des saltos, parce que là, ce sera plus possible, tu vois. Et tu vois, moi, c'est ça qui me, je sais pas, c'est en même temps, c'est un truc qui m'anime. Je me dis, putain, il faut que je partage tout ça. Et en même temps, je me dis, eh ben, comme toi, tu disais un peu avec le côté Orelsan, c'est genre, ouais, putain, mais les gens, en fait, ils s'en foutent, quoi. Ils sont pas dedans, ils veulent pas, en vrai, ils veulent pas jouer, ils veulent pas explorer un peu plus ce qu'ils peuvent faire. Et ouais, c'est vrai que des fois, c'est difficile de se battre un peu contre la foule, quoi. Parce que la foule, elle est... Enfin, je sais quoi, elle n'est pas dedans, quoi. Elle n'est pas dedans.
Mais tu sais, hein, dans ce que tu viens de dire, tu as donné la réponse. C'est-à-dire que tu dis, ouais, de jouer, de découvrir, de prendre son pied soi-même, etc., etc. Ouais, sauf que ça, il va falloir combien ? Un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans avant de pouvoir y arriver. Sauf qu'en fait, on n'est plus comme ça. On n'est plus dans une génération où... Enfin, pas dans une génération, on n'est plus dans un monde où on va prendre le temps. On veut tout, tout de suite. On veut tout, tout de suite. Donc, on veut le physique tout de suite. On veut ressembler à un tel tout de suite. On ne va pas le faire pour kiffer. On va le faire pour ressembler. Et une fois que je veux ressembler à un tel, je vais aller chercher la reconnaissance de mes pairs en postant cette photo et en essayant de récolter un maximum de likes. Et grâce à ça, ça va être mon faire-valoir et je vais exister en société.
Exactement, exactement. Il y a plus ce côté un peu... Ouais, même on en parlait la dernière fois, tu sais, c'est le côté un peu genre, je veux être reconnu par mes compétences, tu vois, comme le samouraï, tu vois, c'est... Bah ouais, le samouraï, il est reconnu par ses compétences, tu vois, il n'y a pas de diplôme de ça, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'Insta, il n'y a rien, c'est genre, bah ouais, je fais ça, en fait. Que toi, tu me regardes ou que tu ne me regardes pas, je vais quand même m'entraîner, je vais quand même manier mon épée, je vais quand même polir mon épée, je vais quand même bien préparer ma tenue, je vais quand même méditer. Que tu me regardes ou que tu me regardes pas, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a de... Enfin, j'ai pas l'impression, je sais qu'il y a de moins en moins ce truc-là, mais ce qui me fait peut-être encore plus me rendre compte, c'est que ça touche même les gens qui sont proches de nous, en fait, avec lesquels on a grandi. Enfin, toi, tu disais que tu avais grandi en campagne, moi, j'ai grandi en ville, centre-ville et tout, à Paris. Et donc, tu vois, les gens que j'ai connus dans ma jeunesse, mis à part quelques cas qui sont un peu... Ils en sont un peu arrivés à d'autres ouvertures, etc. Pour le reste, eh ben, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé dans un corps humain, tu vois. Ils sont là, mais ils n'ont pas cette conscience du corps, quoi. Et du, je sais pas, ils n'ont pas de plaisir, en fait, par le corps, tu vois.
Bah non, leur seul plaisir, c'est d'attendre le week-end pour se mettre une race monumentale avec leurs collègues ou d'aller bouffer comme un gros sac au chinois à volonté et rebelote le lendemain.
C'est ça. Il y a plus ce désir de j'ai envie de m'accomplir aussi à travers le corps, tu vois. Moi, j'adore ce truc-là. J'aime bien que les gens, tu sais, tu rencontres quelqu'un et il dit, ouais, tu sais quoi, j'ai fait 11 ans de judo, tu vois. Ou genre, tu rencontres quelqu'un, tu sais quoi, j'ai fait 8 ans de gymnastique quand j'étais petite. Et je me dis, putain, mais ça, c'est mortel, tu vois. Ça fait que bah, tu sais faire des choses, tu vois. Je sais pas, ça ajoute plus de couleur à une personnalité pour moi, être capable de bouger, être capable d'exprimer des choses à travers le corps plutôt que simplement à travers l'intellect. Tu vois, même si t'es bac plus 25, moi, dans ma tête, bah, c'est comme si on jouait à un jeu de cartes et t'as qu'une seule carte dans ta main, tu vois. Or, si t'as le bac plus 27, mais qu'en même temps, t'as quatre sports que tu sais faire ou t'as plein de trucs, bah, je me dis, ouais, là, cette personne, elle est, moi, je suis plus attiré personnellement par une personne comme ça, multifacette, multidimensionnelle, tu vois, parce que je me dis, bah, au moins, on va pouvoir jouer à plein de jeux, quoi. Tu vois? C'est comme le gars qui est bon que aux échecs quand tu étais petit, et l'autre qui peut faire un peu des échecs, un peu de ping-pong, un peu de volley et tout. Tu sais, t'as envie de jouer avec ces mecs-là, généralement, tu vois. Donc, même dans leur idée un peu de « j'ai envie de la validation de mes pairs », eh ben trouve-toi d'autres pairs, quoi. C'est pas les bons. Trouve-toi des mecs qui ont d'autres valeurs, parce que ça, c'est pas les bonnes valeurs, l'existence à travers le réseau social, tu vois.
Ouais, mais c'est clair. Mais par contre, c'est pas une existence sexy. C'est on préfère l'avis de tel influenceur parce que bah voilà, hein, il a la blonde en legging Gymshark à ses côtés, il a la voiture de sport et il se fait une photo en direct de Dubaï à la place du mec que t'entends pas forcément parler de lui ou alors il est pas forcément sur les réseaux ou il a pas beaucoup d'abonnés, etc. Mais le mec, il a 30 piges et il a déjà vécu 3-4 vies et il a été sportif pro, il a été, je sais pas moi, il s'est éclaté à avoir, je sais pas, genre une licence ou un master dans un truc. Derrière, après, il allait valider un diplôme à l'étranger, il sait parler 3 langues ou 4 langues. Et, mais c'est pas beau, c'est pas sexy, tu vois, c'est pas ça qui va faire que tu vas récolter tes abonnés, c'est pas ça qui va faire que tu es reconnu par les autres. Voilà.
Là, c'est exactement ça. C'est malheureux, mais bon, c'est exactement ça. Tu vois. En tout cas, ouais, je sens qu'on partage à peu près, partage pas mal de points là sur cette idée des réseaux sociaux et tout. Et en même temps, voilà, on a quand même besoin de cet outil pour justement essayer de vivre et de partager nos, ben voilà, nous, ce qu'on pense être plutôt pas mal. Et puis voilà. Là, je rebondis un peu sur ce que tu disais, cette idée justement du gars. Qui a plusieurs facettes, notamment celle de vivre à l'étranger, des voyages, etc. Je sais que c'est quelque chose que toi aussi, tu kiffes beaucoup. Et en plus, à l'approche vraiment orientale, c'est ça aussi qui nous a fait connecter à fond, tu vois. Parle-nous un peu de tes voyages, de tes expériences en Asie, notamment.
Qu'est-ce que je peux en dire? Déjà, moi, j'ai attendu avant de voyager parce que vie étudiante, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup d'argent. Et l'été, en fait, je charbonnais mais comme un enculé et je travaillais 60 heures par semaine et je prenais 3-4 000 euros, tu vois. Et ça me permettait de vivre en fait pendant un an, de faire mes sorties, etc. Et donc, derrière mes études, j'ai lancé mon entreprise de coaching et j'ai attendu 2 ans avant que ça fonctionne. Et une fois que ces 2 ans étaient lancés, j'avais enfin de l'argent qui me permettait de pouvoir voyager tranquille. Voilà, c'est-à-dire que je ne voulais pas voyager en mode « putain, il faut que je compte absolument tous les sous, etc. » C'était horrible, quoi. Mais par contre, je voulais surtout pas voyager comme certains vont faire, c'est-à-dire être H24 dans des hôtels, etc. Pour moi, c'est pas la notion du voyage. La notion du voyage, c'est découvrir les gens, c'est parler, partager un repas avec eux et d'aller dormir chez l'habitant, d'aller dormir dans le petit boui-boui, etc., quoi. Donc, j'ai attendu un peu avant de partir en voyage et j'ai commencé, venant de la boxe thaï, j'ai commencé par la Thaïlande obligatoirement. La Thaïlande, pays complètement paradoxal, mais sur le côté aussi bien des habitants que la manière de vivre, c'est-à-dire que soit on va dire tu restes fermé dans tes idées et tu vas à Phuket, à Pattaya et tu restes en France.
Exactement. Voilà.
Voilà.
Hein. En gros.
De quoi? T'as dit quoi?
Tu disais, alors dans ce cas-là, autant pas partir et économiser le billet, quoi. Si c'est pour aller à Pattaya, c'est pas la peine.
Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc t'as ce côté-là de la Thaïlande et qui a très mauvaise pub. Et je peux comprendre, hein, clairement, hein, quand tu vas dans certains endroits, t'as vraiment pas envie d'y aller, entre les putes, les trans, puis tous les trucs un peu glauques que tu peux voir. Donc tu peux voir la Thaïlande comme ça. Et si tu vois ça, j'ai envie de dire c'est con parce que tu passes à côté d'un pays qui est super. Ou alors tu peux sortir un peu des sentiers battus et visiter le pays un peu en mode un peu backpacker, tu vois, c'est tu pars avec ton sac à dos et tu prévois pas forcément les trucs. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai pris une cuite avec un taille à bord de la bière qui était infecte. Je suis allé m'entraîner, tu vois. J'ai pris une branlée par un gamin de 14 ans, laisse tomber à l'entraînement. j'ai vécu pas mal de choses sur ce voyage là et je me suis surtout découvert moi, et c'est ça l'intérêt du voyage, je pense, c'est d'apprendre à se découvrir et c'est d'apprendre à savoir qui on est réellement, qui tu es. Bah, parce que par exemple tu peux avoir des doutes sur ton niveau d'anglais. Moi, j'avais jamais vraiment parlé anglais, tu vois. C'est pas les petits voyages que tu fais en Europe qui vont te faire parler vraiment anglais, parce que il y a toujours quelqu'un qui parle français pas loin et tu arrives toujours à baragouiner deux, trois trucs. Là, tu te retrouves dans un pays où, bah, si tu parles pas anglais, c'est compliqué, quoi. Donc, ce premier voyage, moi, en Thaïlande, m'a permis d'en apprendre sur moi, de voir que j'étais capable de faire pas mal de choses, de me débrouiller et surtout de facilement m'intégrer avec des étrangers. Voilà. Le côté spirituel, le côté spirituel de la Thaïlande m'a beaucoup inspiré et a inspiré mes tatouages qui sont arrivés plus tard là-dessus.
Ouais.
Donc voilà. Donc la boxe, bien sûr, la boxe, quoi. Enfin, la boxe thaï, mon art martial de tout le temps. Donc c'était vraiment vraiment génial. Mais là où j'ai vraiment vraiment évolué, c'est mon voyage au Cambodge. Parce qu'au Cambodge, j'ai vraiment vécu avec des Cambodgiens. J'ai vraiment été au cœur du Cambodge avec des Cambodgiens. J'ai fait un 1er janvier. Il y avait une cinquantaine de personnes. J'étais le seul blanc de toute la soirée. C'était énorme. Mais c'était énorme. Oh, à 3 heures du matin, tout le monde était bourré. C'était le jeu. C'était de faire des pistol squats.
Genre.
Et je te jure, pendant une demi-heure, j'ai fait des pistol squats. J'ai appris à des Cambodgiens, mais qui avaient 30, 40, 50 piges, à faire des pistol squats. Et c'était, mais énorme.
Les bons moments.
Ah ben ouais, et c'est ça, tu vois. T'arrives au Cambodge, tu vas à Phnom Penh. Tu t'installes, tu commences à taper la discute avec la nénette qui faisait à manger. Le mec à côté, il t'offre le repas. Putain. Tu sais pas pourquoi. Bah, il m'a dit simplement, vous êtes gentil, vous avez discuté, vous vous intéressez à notre culture, je me permets de vous offrir ce repas. Et là, tu prends une claque dans la tête. Tu dis, mais attends, le mec, il a pas grand-chose sur lui et il t'offre le repas. Mais c'est ouf, quoi, c'est ouf.
C'est que ça. Hein. Ça, c'est pas un cas isolé, tu vois, pour les gens qui diraient, ouais, t'as eu de la chance et tout. Mec, moi, ça a été mon quotidien pendant des années. Ça, c'est tous les jours que ça arrive. Tout le temps. T'as toujours une connexion comme ça qui se passe. T'as toujours une preuve de bonté, en fait, naturelle des gens, tu vois, une preuve de savoir-vivre, de partage, de générosité, de gentillesse. Mais tu l'as au quotidien, que ça soit le gars. Il voit que t'es perdu, il s'arrête en scooter, il dit, tu sais quoi, vas-y, monte sur mon scooter, on y va. Que ça soit exactement comme tu dis, quelqu'un qui paye un repas, que ça soit quelqu'un qui vienne, tu sais, qui voit que tu galères chez toi, t'as la porte ouverte, il dit, t'as un problème avec ton, je sais pas, avec ton fan, là, ton éventail, je vais t'en chercher un. Attends-moi 10 minutes, le mec, il va à l'autre bout de l'île, il va te ramener son truc de son cousin. Moi, c'est mon quotidien, j'en ai un milliard d'histoires comme ça. Et c'est ça qui est fabuleux, avec le voyage. Et surtout, en fait, quand tu sors de l'Europe, moi, j'ai l'impression, dès que tu sors de l'Europe,
ouais.
Passe avec l'Europe, c'est peut-être les températures froides, mais qu'est-ce qu'on est froid par rapport aux gens au reste du monde. On en a peur. Ils nous conditionnent à penser le mal de l'extérieur, mais tu sors et comme tu dis, tu prends une claque. Tu te dis, mais en fait, je ne sais pas vivre, je ne sais pas me comporter.
Ah, mais c'est ouf. Non, mais c'est clair, tu as raison. Je me rappelle, moi, de... En Thaïlande, où donc on joue des bungalows sur une île, mais perdue l'île, mais au fin fond de la Thaïlande, mais franchement, l'île à la limite de la Malaisie, voilà. Et en fait, pendant pendant 10 minutes, je jouais au soldat avec le gamin du mec qui faisait les locations du bungalow. Mais ce moment-là, mais c'était juste dingue. On parlait pas la même langue, on parlait rien. Mais je jouais, je faisais bouger les petits soldats, les petits machins. Le gamin, il était refait. Moi, j'étais aux anges, mais c'était tellement bien. Mais ça m'est jamais arrivé en France, en Europe. Et pourtant, j'ai fait 10-15 pays européens. Jamais j'ai fait ça avec un enfant. On va dire, mais c'est quoi ce mec? Il est complètement fou. On va dire, ah, c'est bon, c'est un pédophile ou je sais pas quoi. Mais là-bas, mais pas du tout. T'as ça, et puis le côté aussi sortir de sa zone de confort, parce que clairement tu sors ta zone de confort, tu vas dans, moi j'ai dormi dans des endroits c'est chaud quoi. J'ai dormi au Cambodge, moi j'ai dormi dans un appart qui était derrière un bar. Déjà il y avait un rat mort devant la petite ruelle pour aller au truc, donc tu fais ok d'accord, et là tu rentres dans l'appart et là il y avait des cafards morts partout. Là tu fais, je suis tombé où, bordel? Allez, mais ah ouais, ça non c'était mais voilà, mais en fait c'est quoi, tu dors et tu te poses même pas de questions en fait.
C'est ça qui se passe aussi. Il y a genre, je sais pas, une fois que tu atterris là-bas, tu passes quelques heures ou quelques jours, mais tu as genre en fait l'ensemble des règles qui t'animent normalement, tu les dégages. Genre, tu sais, tous les gens qui sont. Moi, je me rappelle, je vais chez des potes des fois, des potes à Paris, leur appart, mec, dans leur salle de bain, il y a genre, honnêtement, il doit y avoir 50 bouteilles. Pour désinfecter, désanesthésier de je sais pas quoi. Mec, en Thaïlande, il n'y a rien. Un savon pour la tête, le pied, c'est pareil, tu vois. Donc, et tout le monde vit très bien. Et ils vivent même mieux, avec moins d'infections, moins de maladies et tout, tu vois. Et nous, avec toute la dose de produits chimiques, là, tout le laboratoire qu'on a dans nos salles de bain, on est tout le temps malade et on a toujours des merdes. Et c'est ça le truc, quand tu arrives là-bas, dans d'autres pays, généralement, tu vas aller dans des pays un peu comme ça. Et ben en fait, ouais, tu sais, bon, tu t'en fous, tu dis, bah non, mais c'est pas un souci, quoi, je vais pas mourir, il se passe rien, quoi, tu vois, c'est pas grave. Tu sais, c'est la nature, bah ouais, il y a des cafards, des fois, il y a des moustiques, c'est bon, tu sais, obligé d'avoir ton climatiseur, tes vitres anti-moustiques, et tout. Bah non, mais c'est pas grave, tu vis avec, ton corps, il s'adapte, et puis, moi, j'adore ce côté-là, tu vois, ce côté, bah c'est bon, on vit comme on est censé vivre, quoi. Il y a une dose suffisante de...
Ah, mais...
Il y a pile ce qu'il faut qu'on fasse, il y a pas trop comme nous, on a besoin, tu vois. Genre, nous, on va faire du shopping pour des matelas, pour des lits. Mec, hey, tu mets un tapis.
Ouais.
Bon, dors. Tu dois éteindre la machine. C'est bon, bah, dors, en fait. Ça va se faire tout seul. Laisse le corps. Il sait comment faire. T'as pas besoin d'un matelas d'eau qui épouse la forme de ton corps. Non, t'as pas besoin de tout ça. Il n'y a jamais eu tout ça. Ton corps, il est censé dormir comme ça. Tu vois, tu peux dormir, t'inquiète.
Ah ouais, non, mais frère, franchement, ouais, mais t'as raison. Non, mais, enfin, ça te fait prendre conscience. Quand tu commences à voyager, alors voilà, ça dépend comment tu voyages. Si tu voyages d'hôtel en hôtel, vraiment sympa, tu t'en rends pas compte. Mais clairement, quand tu commences à voyager dans ces pays-là, tu te rends compte que déjà, notre société, on est beaucoup trop dans le confort.
Ouais.
Tout ce qui nous paraît pour acquis, oh, l'eau potable.
Ouais.
L'eau potable, mais rien que la base, l'eau potable. Tu peux pas boire l'eau là-bas parce que de toute façon, si tu bois l'eau, tu finis au chiotte plié de douleur. Donc tu es tout le temps obligé d'avoir ta bouteille d'eau. Et moi, quand j'ai des clients qui me disent, j'arrive pas à boire 2 litres d'eau par jour, mais putain de connard, tu vas pas au puits en chercher de la flotte, t'as juste à tourner le robinet.
Je jure. Ah, mais c'est clair, là-bas, tu fais pas une randonnée dans la jungle sans avoir ton bidon de 6 gallons d'eau. Sinon, il n'y a pas d'eau. Et c'est ça, c'est vrai que ça, c'est un truc ouf, la relation avec l'eau. Moi aussi, elle avait trop changé. Tu sais, en Thaïlande, je sais pas si tu te rappelles, ils ont des trucs qui te remplissent l'eau automatique. Tu sais, t'achètes un gallon, une fois que tu le finis, et ben après, t'es pas obligé de racheter genre encore un autre bidon là d'eau. T'as une petite machine comme un distributeur automatique d'eau, en fait. Et tu rentres, et c'est tellement pas cher. C'est genre, un baht, c'est 1 litre. Je sais pas si t'imagines, mec. Un baht, c'est 1 litre. Tant que 1 euro, c'est 30 bahts. Donc, pour 1/30 d'euro, t'as 1 litre d'eau. Donc, abondance. Et c'est que comme ça, tu vois. Et moi, je passais mon temps à faire ça. Et au final, ça te fait une autre action qui t'ancre aussi dans la conscience de ton corps. Tu n'es pas en train de, tu sais, d'ouvrir le robinet, laisser traîner, laisser couler. Tu t'en bats les steaks parce qu'en fait, tu es tellement désensibilisé de ta relation avec la nature et avec comment avoir de l'eau que les gens s'en foutent du robinet. Ils ne calculent même pas, tu vois. Ils laissent la douche traîner et tout, tu vois. Et ils font genre 50 machines à laver par jour. Tu vois. Ils ne se disent pas qu'il y a… Tu vois. Mais là-bas, non. Là-bas, tu es trop conscient parce que quand tu as soif, l'eau qui est chez toi, déjà, tu évites de la boire. Tu vois. Donc, tu dis, putain, il faut que je me déplace pour prendre l'eau. Alors, évidemment, on est déjà confortable. Hein. Il y a des 7-Eleven partout et tout. Mais quand même, rien que de faire cette petite action, moi, je le sais, quand je reviens en Europe, je deviens de nouveau un connard avec l'eau, tu vois. Pourtant, je fais méga attention. Mais je me dis, putain, mais je suis un ouf, en fait, là, de mettre de l'eau comme ça. Tu sais, tu mets l'eau dans la théière, le thé devient froid, tu vides l'eau, tu sais. Et je fais, putain, mais en fait, je devrais. Je dis, mec, t'es un ouf. L'eau, elle est froide. Tant pis, tu bois de l'eau froide, tu bois du thé froid, comme tout le monde. Et c'est des trucs, avant, je faisais pas, tu vois. Je m'en foutais, je jetais l'eau et tout. Et c'est vrai que les pays comme ça, ils t'apprennent rien que ce petit geste-là, à quel point c'est un confort de vie énorme.
Ah ouais, non, mais c'est clair, t'as raison. Ça nous fait revenir en fait à des choses beaucoup plus importantes. Moi, tu vois, encore l'eau, ça va, mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est la douche. Déjà, rien que le fait déjà d'avoir une douche avec de l'eau chaude. Donc déjà, c'est du luxe en Thaïlande. Et au Cambodge, encore pire. Franchement, quand tu as de l'eau chaude, c'est déjà bien. Donc, y a des fois, tu n'as pas d'eau chaude. Putain, la première fois de ma vie où il a fallu que je prenne une douche froide alors qu'il faisait 40 degrés dehors, ah, je te jure que tu ne restes pas longtemps sous la flotte. Hein. Oh putain, et je me rappelle parce que c'était perdu dans une île et il y avait un crapaud qui me regardait et j'étais en train de me dire, il regarde ce putain d'Européen qui se pèle les couilles à cause de l'eau froide et qui bouge de partout. Il doit se dire, mais putain, mais regarde moi ce mec là, il arrive même pas à prendre une douche.
Il a dû se régaler.
Ah ouais, mais il y a. Et voilà, la douche, quoi. Putain, l'eau chaude, nous, ça nous paraît tellement facile, mais tellement facile d'accès. Mais il n'y a pas là-bas.
Et puis, tu sais, t'as tous les endroits où il n'y a pas de douche, tu sais, t'as juste un seau, quoi. Et tu dois remplir l'eau et après te doucher avec. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai déjà vécu, mais des mois dans des bungalows comme ça, tu vois, mais genre plus de 6 mois où, genre, ça devient ta douche, en fait, c'est ton habitude. Et il n'y a rien de. Au final, ça ne change rien à ta vie, tu vois. Les gens, ils se disent, enfin, comment dire. C'est un peu les mêmes limitations que ce qu'on disait tout à l'heure avec le sport, la relation au corps. Les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont capables de faire, en fait, tu vois. Et donc, ils abandonnent méga vite, ils viennent avec des a priori négatifs. Et là, c'est pareil, ils disent, ah, moi, je pourrais pas vivre sans ça. Mais bien sûr que tu peux vivre sans ça. Bien sûr que tu, mais enlève ta couverture, tu vas t'habituer. Enlève le chaud, tu vas t'habituer. Tu vois, c'est juste, au bout d'un moment, faut le faire, quoi, tu vois. Donc après, je comprends, si tu veux pas le faire, t'es libre. Mais après, faut pas être choqué quand on te dit, reste chez toi pendant le confinement et que t'as jamais passé de temps tout seul chez toi, tu vois. Bah voilà. Faut pas se plaindre après quand il y a des crises un peu comme ça et que ça t'arrive et que t'es forcé de faire les choses. Bah ouais, on peut pas toujours avoir accès à toutes ces technologies, à toutes ces petites choses de confortables, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu voyages et que tu vas dans d'autres pays, il y a directement ça te met dans le fait accompli. Moi, je me rappelle, j'étais au Brésil, il y a pas de chauffage. Il caille. Mec, en hiver, t'es dans un appart, il n'y a pas de chauffage, tu vois. Et tu dis, mais attends, mais j'y ai jamais pensé à ce truc-là. Il faut que je m'achète des couvertures. Non, mais ouais, en vrai, pas de chauffage à la maison, c'est un truc de ouf en hiver. Et on se rend pas compte, parce qu'on a toujours le chauffage, on s'en fout. Mais ouais, c'est que des petits trucs comme ça, tu vois. C'est incroyable, incroyable.
Ah ouais, non, mais le voyage, je trouve que le voyage te change. Clairement, moi, il y a eu un avant et un après hein, entre mes voyages. Ça t'apprend à donc redonner vraiment l'importance aux choses essentielles et de rendre compte qu'il y a beaucoup de choses superficielles dans notre vie.
Ouais.
Par exemple, hein, t'en as, ils vont dire, je vais t'enlever ton pain et ton croissant ou ton pain au chocolat le matin. Bah ouais, mais quand tu vas là-bas, il n'y a pas ça. Enfin, tu peux pas. Si tu manges ton bol de riz ou ta soupe, ton pad thaï, etc. Et ton pad thaï, tu vas le manger le matin. Alors, tu en as qui te jurent, ils te jurent grand nu, qui disent « Ah, mais je ne peux pas manger si ce n'est pas sucré le matin. » Bah ouais, mais en fait, quand tu es obligé, tu manges. Hein.
C'est clair, c'est clair. Et c'est que des trucs comme ça. C'est que des petites… Au bout d'un moment, tu vis un peu ces expériences-là. Et encore, nous, ce qu'on vit, c'est genre… Mais... des années-lumière de ce que quelqu'un qui est né là-bas vit, tu vois. Parce que moi, comme toi, t'as toujours le confort de toute façon, j'ai mon passeport, je peux rentrer chez moi, tu vois. Mais eux, c'est leur quotidien, tu vois. Et il y a des gens qui sont pires. Nous, au moins, on va dans des trucs où il y a des bungalows, c'est-à-dire que les mecs, ils peuvent louer un bungalow, c'est-à-dire qu'ils possèdent des bungalows. C'est déjà le top un peu de la population, tu vois. Et c'est pas grand-chose déjà, tu vois. Mais ceux qui sont pauvres là-bas, c'est des trucs qu'on n'arrive même pas à concevoir, tu vois. Et c'est vrai que ça te rend méga, méga humble et qu'au final, tu te rends compte que la vie, elle est bien plus simple et que tu peux vivre avec beaucoup moins de choses et que tu peux vivre très, très heureux, tu vois. Et que ça dépend pas vraiment de ce que tu as et dans le pays dans lequel tu es ou la ville dans laquelle tu es, tu vois. C'est vraiment un mindset, c'est vraiment un état d'esprit. Et ouais, moi, quand on s'était vu, j'avais kiffé parce que toi, tu es parti même plus loin, tu as tatoué ça sur ta peau, quoi. Tu as mis ça à vie. Sur ta peau, quoi.
Ouais, bah en fait, quand tu. Moi, vraiment, ça a été une révélation. Mon premier voyage en Thaïlande a été une révélation. Le Cambodge j'ai vraiment poussé, c'est marrant parce que mes gros voyages, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'ai fait Chine, Thaïlande, Cambodge, Japon en gros voyage et je devais partir en Corée du Sud l'année en début 2020, mais j'ai pas pu avec le Covid. Mais moi, ça me permet vraiment de grandir à chaque fois. J'ai l'impression que je franchis une étape. Et voilà, j'ai toujours eu cette volonté de vouloir me faire tatouer, mais je voulais attendre. Et j'ai fait le premier au Cambodge. Et en fait, j'avais toujours cette phrase de Gandhi qui restait tout le temps. En moi qui est « Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre pour toujours. » Et je me suis dit « Cette phrase, il faut que j'en fasse quelque chose parce que c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place. » Et clairement, mon deuxième voyage, je l'ai fait à un moment donné où ma mère était très malade et en fait, j'ai acheté mes billets à ce moment-là parce que ma mère est tombée malade. Alors que, enfin, elle aurait pu ne pas tomber malade, il n'y avait pas de signe avant-coureur, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il faut que je parte, parce que ça ne sert à rien de me poser 15 000 questions, pars. Donc, ma mère est tombée malade, j'ai pris les billets 2 semaines après et je suis parti en fin d'année. Et le mois d'après, je venais de me péter de ligament croisé et j'aurais pu dire, ah bah non, je peux attendre, etc. Je suis quand même parti, le ligament croisé était pété, hein, de toute façon, voilà, la dune que pourra. Et je me suis dit, voilà, il faut que je marque le coup. Et donc, en fait, j'ai fait traduire cette phrase par des Cambodgiens que je connaissais sur place. Et je me suis dit, bah voilà, je vais me la faire tatouer. Donc, j'ai fait cette phrase-là, je l'ai fait traduire en cambodgien, je l'ai fait traduire en thaï et je l'ai fait traduire aussi en japonais. Et donc, à chaque fois que je pars sur des gros voyages, je la fais tatouer dans la langue d'origine et je la fais aussi tatouer là-bas, voilà, pour avoir ce côté que c'est marqué à vie.
Ouais.
Et je n'ai pas le droit de déroger à cette règle puisque c'est marqué sur moi. Je dois rester dans cette façon de vivre qui est que il faut vraiment profiter à chaque instant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais aussi il faut continuer à apprendre, continuer à te construire en tant qu'homme parce que tu dois continuer à le faire parce qu'il te reste peut-être encore, 40, 50 ans à vivre, 60, je ne sais pas, et qu'il faut que je finisse ma vie en me disant, un, je ne regrette rien, et deux, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être quelqu'un de meilleur.
Amen, amen. Mais c'est ça qui est ouf là, avec la relation avec les tatouages et marquer sa peau. c'est que en France, il semble que ça soit peut-être de moins en moins, ou peut-être c'est parce que les gens reconnaissent, ils sont tous tatoués, mais il y a encore peut-être ce côté tabou avec les tatouages, alors que toi, tu pourras le confirmer, mec, tu vas en Asie, mais tout le monde est tatoué. Même la petite qui a 17 ans, elle est tatouée. Et genre, elle a toute sa jambe, elle est déjà tatouée. Et ils ont une relation avec l'encre, le tatouage, avec marquer les choses, avec le symbolisme aussi, qui est bien plus présent que chez nous, tu vois. Et moi, j'ai remarqué ça avec beaucoup de pays asiatiques, mais aussi même en Amérique latine, tu vois. Au Brésil, c'est pareil. Tout le monde est tatoué, mec. Et c'est pas que des trucs un peu... Évidemment, t'as plein de trucs tout pourris, tu vois. Que ce soit des dessins animés et tout. Mais t'as aussi plein de trucs qui sont très cosmiques, tu vois. En mode, ça, c'est mon nom, c'est l'héritage de ça. Tiens, ça marque l'histoire de mon arrière-grand-père quand il est venu. Ça, c'est un truc familial. Les histoires de clans aussi, surtout au Japon. Tu vois, ils ont ce truc avec les Kamon. Tu vois, Kamon, c'est le... Littéralement, Ka, tu vois, c'est le kanji de la famille. Et Mon, c'est le kanji de genre l'écriture, quoi, tu vois. Et donc, c'est le symbole de la famille, quoi. Et c'est ça, le Kamon, c'est ça, les clans qu'il y a au Japon. Et tu vois, les Yakuza, ils sont encore descendants de ça. Et moi, je me rappelle, j'avais des copines et tout qui avaient tatoué ça sur leur corps. Et c'est normal, en fait. C'est pas vu, peut-être pas le Japon maintenant, mais en tout cas, c'est moins vu en Asie. Comme ça pourrait l'être chez nous, où c'est un truc de, je sais pas, de biker ou de prisonnier, ou j'en sais rien, tu vois. Et moi, ça, j'ai vraiment développé cet amour-là pour les tatouages, même si, tu vois, moi, je suis encore vierge de tatouages. Mais j'aime bien chez les autres, tu vois. J'aime bien avoir les histoires, j'aime bien avoir là, comme ce que tu racontes, tu vois, avoir ce côté, la relation à mon corps. C'est aussi mon canvas, tu vois, c'est là où je peux peindre. Ce que je veux, tu vois. Donc moi, je le fais avec le mouvement, mais il y en a, ils aiment bien aussi avec les écritures, avec les symboles, avec les couleurs, avec les formes. Et ouais, moi, j'admire, tu vois, les gens qui font ce pas-là et qui le font pour ce type de raison-là. Et il semblerait même qu'il y a des trucs. Bon, après, là, faut partir dans les trucs spirituels, tu vois. Là, je reviens de Thaïlande, c'est pour ça que je suis encore comme ça. Il y a des comment on pourrait appeler ça correctement ? Pas le mot délire.
Les saquiantes.
Ouais.
Voilà. C'est des saquiantes. Mais tu sais que j'en ai, moi, des saquiantes sur le corps.
Ouais.
Dans le voilà. Dos. Dans le dos, ouais. Dans le dos, ouais. J'en ai trois. Ouais.
Dis-nous, c'est... un peu tout ça. Tout ça
Et ben, en fait, c'est venu donc, sur mon deuxième tatouage que je fais faire, donc l'écriture en thaï, etc. Et donc, je parle avec la tatoueuse, donc, qui est thaïlandaise, et elle m'explique, voilà... Je connais le seul Français, le seul Européen qui a été adoubé par les moines thaïs. Ça fait 10 ans qu'il est en Thaïlande. Ça fait 10 ans qu'il étudie les saquiantes, etc. Et donc, il est ajam. Il est prêtre, tatoueur thaïlandais, marié avec une thaï, etc., etc. Et donc, je contacte et donc j'apprends à faire connaissance et j'apprends en fait... Cette utilisation, c'est-à-dire que, en fait, tu te fais tatouer par rapport à tes besoins.
Exact.
C'est pas, je me fais tatouer parce que je trouve que ce symbole, il est beau, etc., ou que Carpe Diem, parce que je suis un abruti de la télé-réalité et je marque Carpe Diem parce que tout le monde marque Carpe Diem. C'est vraiment beaucoup plus loin. C'est qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie actuellement?
Ouais.
Et en fait, moi, à l'époque, ma mère avait ses problèmes de santé, etc., et, la protection, tu vois, protection de la famille, protection, tout ça. Et donc, le premier saquiante, donc qui est au niveau de mon dos, en gros, comment dire, ça pourrait représenter une maison dans laquelle tu protèges ta famille. Donc, tu te fais tatouer ça et tu protèges ta famille. L'expérience a été assez incroyable. En plus... je me suis fait tatouer, la télé, elle était là à ce moment-là. Je planais à 15 000 lieues parce que en fait, comme je suis quelqu'un d'un peu abruti, parfois, j'ai fait une séance la veille, j'avais des courbatures. Donc, va te faire tatouer sur des courbatures. Je te jure, putain, qu'est-ce que ça fait mal. C'était incroyable, incroyable. Même mon esprit parti dans tous les sens, c'était vraiment une sensation vraiment particulière. Et j'ai voulu renouveler l'expérience parce qu'en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Et donc, j'en ai fait un deuxième. Je l'ai fait 8 mois après. Donc, c'est des Bouddhas qui sont tatoués sur le haut de mes épaules. Pareil, donc c'est un tatouage de protection, mais plus personnel. Me protéger moi, pas protéger les autres, pas protéger la maison, la famille, etc., mais me protéger moi. À ce moment-là, en fait, j'avais des gros problèmes. Je me suis fait braquer du matériel, je viens de me faire opérer d'un genou. J'étais vraiment dans une période dans le bad. Hein. J'étais vraiment dans le bad. Et donc, j'ai fait ce tatouage à ce moment-là. Qui ou pas m'a permis de remonter la pente, mais en tout cas la pente a été remontée et bien plus dans cette période-là. Donc ça a été cool. Et le dernier, je l'ai fait il y a un an. Et en fait, c'est une boussole. Et c'est une boussole qui permet en fait de ne pas te perdre en chemin et de garder ta voie et te permettre d'avancer dans la voie dans laquelle tu te destines à être. Voilà. Et donc c'est assez intense hein, puisque c'est une façon vraiment particulière de se faire tatouer. Ça va très vite par contre le grain est différent, les traits sont différents et même tu dois te réciter un mantra, tu dois pas parler pendant le tatouage, tu dois faire une offrande, etc. C'est vraiment intéressant.
Ouais, il y a une vraie cérémonie derrière. C'est pas juste un tatouage bling bling. Il y a un vrai protocole à suivre. Il y a quelque chose un peu spirituel. Il y a vraiment comme une cérémonie de chaman ou quelque chose comme ça. Il t'essaye vraiment de marquer au travers de l'encre et ce que ta peau peut révéler en réagissant avec l'encre. Tu essayes de marquer quelque chose, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi. Moi, tu vois, j'ai longtemps vécu la Copangan. Et il y a ce côté là-bas également où, comme tu disais, des fois, c'est pas toi qui choisis, tu vois, c'est dépendant de ta vie, tes expériences, le moment dans lequel t'es. Le tatoueur, il va essayer, tu vois, de découvrir tout ça pour essayer de capturer cette image-là de toi à ce moment-là et de la transmettre au travers de son art. Et en même temps, tu peux aller même un cran plus loin, c'est qu'en étudiant un peu différentes choses, que ça soit ton type de corps. Je sais pas ton niveau un peu spirituel du moment ou j'en sais rien, tu as plusieurs autres choses avec des questions etc, ta psychologie, human body design, je sais pas quoi là, tous les autres trucs, tu vois, que ça soit Ayurveda et tout, même l'astrologie, et ben tu peux aussi il va pouvoir te dire qu'il y a certaines formes qui vont pouvoir tu sais, soit ouvrir certains chakras, te faire plus de bien que d'autres, alors que d'autres vont être à éviter parce qu'elles vont être beaucoup plus, elles vont être prônes à t'empêcher d'agir ou à te créer des douleurs, etc. Tu vois. Donc après, évidemment, ça faut vraiment partir un peu plus loin, mais il y a vraiment d'autres dimensions aussi du rapport au corps et ce que le tatouage peut faire. Et c'est vrai que ça a été utilisé pendant toute l'histoire de l'humanité, en fait. Tout le monde a toujours été tatoué, tu vois. Et c'est vrai que nous, on le voit différemment. Moi inclus, hein, j'ai pas du tout été éduqué là-dedans. Et c'est que, on va dire, les 5 dernières années que j'ai commencé à m'intéresser, à regarder, à essayer d'approfondir les sujets et à voir que, tu vois, dans toutes les civilisations, il y avait ça, comment les gens les prenaient, etc. Et c'est vrai que c'est passionnant, tu vois. Bon, c'est gigantesque, hein, moi, je connais rien. Mais j'aime beaucoup, là, entendre ce que tu dis, tu vois, surtout sur les prières thaï et tout. Moi, je me rappelle, en Thaïlande, tu vois, tous les combattants, ils sont tous tatoués pour les mêmes choses. Ces histoires de protection, de gratitude, tu vois, que des choses comme ça.
Et c'est franchement c'est vraiment une expérience particulière parce que lorsque tu te fais tatouer donc par un jarme, clairement tu te mets à genoux devant lui et tu lui offres ta peau, tu lui offres ton corps, mais tu lui offres aussi ton âme et sa capacité en fait à ancrer des choses dessus, parce que normalement ces tatouages là ont une portée donc psychologique, ça c'est sûr, mais ont des pouvoirs magiques. Jean-Charles Skarowski, qui a été un des plus grands nakmoué français, te dit que du jour où il s'est fait tatouer son dos, il n'a plus jamais eu d'ouverture en combat.
C'est ouf.
Et tu dis ta 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 ta. Et en fait, c'est pas possible. Il te dit, je sais pas à quoi c'est dû. Je l'ai vu dans une interview quand je m'étais renseigné un peu là-dessus. Et il te dit, je n'ai plus jamais été ouvert de ma vie, plus t'es KO à cause de ça, le jour où je me suis fait tatouer par un prêtre à Charme. La fois. Ah ouais.
Là, normalement, on a perdu 80% des auditeurs. Là, ça fait 20 minutes qu'il y en a. Ils sont déjà partis sur RFM. Ils ont déjà lâché l'affaire.
Bref, le et t'as même.
Tu veux rester avec nous, on va plonger encore plus loin.
Ah ouais, non, mais on va aller encore plus loin. Deeper. Le prêtre, donc Mathieu, à Jarme, il t'explique qu'en fait, il a des mecs qui viennent le voir en Thaïlande pour se faire mettre des sakyantes pour guérir de maladies. Ouais. Et là, tu dis, attends. Et le mec te dit, bah voilà, je lui ai fait ça. Le mec n'a plus de maladie. Le mec, il avait un cancer ou je sais pas quoi. Et en fait, pendant plusieurs années, il n'a plus eu de problème. Alors, est-ce que son cancer est parti? Je me rappelle plus. Est-ce que je me rappelle plus? Mais le mec, suite à ces tatouages-là, plus de douleur, plus de soucis. Mais là, grâce à ces tatouages.
Mais là, c'est bien de dire ce que ça. Là, je vais rebondir là-dessus parce que pour les gens qui n'ont pas plongé là-dedans, qui sont encore en surface, là, ça va peut-être éclaircir les choses. Tout ça, ce qu'on dit, c'est pas que le tatouage en lui-même est magique. Ce qu'on dit, c'est que il y a plusieurs dimensions à l'être humain et que l'une de ces dimensions, elle est énergétique. Là, pour ceux qui sont encore méga, méga cartésiens, n'hésitez pas à lire les derniers articles en physique quantique qui parlent de ça. Comme ça, vous aurez l'approche des scientifiques très sceptiques, athées, qui vont vous dire que ouais, c'est clair qu'on fonctionne aux énergies. Donc là, au moins, vous aurez cette explication. Pour les autres, qui ont un peu plus d'espace dans leur cœur, plongez avec nous. Les tatouages, ça va être là dans ce qu'on essaye de dire, c'est un médium, c'est un moyen, c'est un outil, de la même manière qu'un guérisseur ou qu'un magnétiseur, etc. C'est qu'il a accès, il utilise d'autres choses que nous on voit pas à l'œil nu, tu vois. Et c'est pour ça que pour des gens c'est pas très compréhensible, mais pour les gens qui sont, je sais pas, qui ont ouvert un peu ça en eux. Bah ouais, ça a totalement du sens, tu vois, qu'une marque sur ton corps puisse déverrouiller ou bloquer certaines choses, comme plein de maladies qu'on a. Tu vois, ce qui est bizarre, c'est que sur ce type de conversation, t'as plein de gens qui vont dire « Ouais, mais c'est n'importe quoi, etc. » Par contre, tu leur dis que l'anorexie, c'est une maladie purement dans l'esprit, ils vont dire « Ouais, j'y crois. » Ben alors, pourquoi tu croirais pas dans notre cas-là? Si je viens de te dire que la meuf qui est anorexique, peu importe ce qu'elle mange, elle va toujours se voir trop grosse, là, tu arrives à y croire et tu comprends l'influence de l'esprit sur le corps. Mais par contre, quand je te dis tu comprends pas l'influence de l'esprit ou des énergies sur le corps à travers un tatouage, là, il n'y a plus personne. Tu vois. Et c'est ça, il y a des fois des gens, ils n'arrivent pas à faire le parallèle entre deux choses. Tu vois. Et nous, c'est ça qu'on fait là. Tu vois. Et c'est vrai, quand tu as été en Thaïlande ou en Asie et que tu as vécu parmi eux, etc., il y a plein de choses comme ça qui te... En fait, c'est juste qu'il faut essayer de se mettre... Il faut essayer de voir le rapport au corps et le rapport à l'être humain et le rapport à la vie, comme tu disais, à travers un autre prisme. Et que ce prisme-là, il n'est pas ancré dans quelque chose de temporaire, mais il s'ancre dans quelque chose de cyclique, dans quelque chose d'infini. Tu peux hériter des choses, les déverrouiller, tu peux, je sais pas, tu peux avoir d'autres âmes attachées aux tiennes. Il y a plein de choses, tu vois, c'est vraiment tout un monde gigantesque, tu vois, le monde des énergies, etc. Nous, on prend que le petit exemple des tatouages. Et de cette forme de tatouage, mais après c'est pareil quand tu veux parler des yakuza, quand tu veux parler aussi des chamans dans les tribus avec tout ce qui est, ou les rites de passage dans les tribus africaines, ou les guérisseurs au Népal, ou les moines du Tibet, ou les chamans ayahuasca au Pérou, il y a toujours un rapport avec le tatouage, avec marquer sa peau, avec les énergies, et c'est fascinant. Donc voilà, ça c'est la petite aparté des cartes.
Non mais t'as raison, parce que certains peuvent penser que c'est complètement tordu, tiré par les cheveux, etc. Donc ouais, c'est sûr, quand on parle de magie, c'est vrai que je l'ai dit de façon maladroite, mais je pense qu'il y a ce côté donc énergétique, et il y a ce côté qui va en fait te permettre d'y croire.
Exact, il y a ça aussi. Il y a tout ce côté, je me croire à des choses, c'est comme les effets placebo, etc. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a des vraies choses aussi qu'on ne perçoit pas. Et que si aujourd'hui, le mot qui peut le décrire au mieux, c'est magie, bah tant pis, ça sera magie, tu vois. Mais on ne parle pas d'Harry Potter.
Ouais.
Wingardium Leviosa, tu vois. On parle de juste quelque chose que la science n'a pas encore trouvé un mot pour l'expliquer. Et donc, nous, on appellera ça magie. Et puis, c'est tout, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, c'est mystique, c'est cosmique, c'est il y a vraiment une relation à d'autres mondes, tu vois. Et c'est ça qui est fascinant avec les tatouages. Et après même, tu vois, moi, je me rappelle de conversations après les entraînements, après un sparring, où tu échanges, tu regardes le gars, les tatouages, les blessures. Tu sais, il y a ce rapport un peu avec ton corps comme ton temple, tu vois, les choses que tu lui fais bien et aussi les choses qu'il exprime. Bah, c'est aussi des traces de ton histoire, tu vois. Pas nécessairement que les coupures, les blessures pour un combattant, mais il y a quelque chose de très deep, tu vois, de très profond avec ton corps, tu vois, la manière dont à l'intérieur tu le sens et tu te sens, la manière, il y a des choses que tu vas pouvoir faire, tu vas pas pouvoir les expliquer, alors que d'autres qui semblent être plus simples pour ton corps, tu vas jamais réussir à les faire. Et on a tous ces choses-là, quand on écoute vraiment bien son corps, on a tous ces choses-là, on a tous ces, comme des portes qu'on peut déverrouiller, que tu sais très bien que d'autres ne peuvent pas déverrouiller. Des choses que tu peux faire en te levant le matin, même sans échauffement, et d'autres qui sont impossibles si tu ne t'échauffes pas, tu vois. Et pourtant, ces mouvements, ils sont plus simples. Donc, tu as plein de trucs comme ça. Et donc, il y a aussi ça pour quelque chose d'un peu plus spirituel, tu vois. Et c'est vrai que ouais, là, c'est ce dont tu me parles. Moi, j'y adhère à fond, quoi, parce que je l'ai vu. J'en ai vu tellement de preuves que ouais, ce serait vraiment de être naïf ou être... Non, c'est vraiment du mensonge que de dire que j'y crois pas ou que je vois pas ça.
Ouais, bah, quand on grandit dans une société très cartésienne, on a un peu de mal à croire ça, mais faut bien se dire que c'est pas une pratique sur une civilisation à un moment donné. Cette pratique-là, en fait, elle est de façon... elle a été globale dans toutes les civilisations. Que ça soit, ouais, enfin, quand tu vois certaines tribus africaines, les gars, ils sont marqués, les Maoris, les tatouages qui étaient à la mode à un temps donné, les Maoris, tout ce qui est tout le côté, voilà, Thaïlande, tout ça, quand tu vas partout, tu as cette histoire de tatouage et cette histoire de tatouage qui est ancrée à la religion. Je suis même sûr que quand tu vas regarder dans nos chères religions monothéistes, je suis sûr qu'il y a des trucs avec le tatouage, c'est obligé. Quand tu vas chercher deep et que tu vas bien chercher dans les écrits, c'est obligé qu'il y a des choses avec les tatouages, parce que c'est quelque chose qui est tellement global et qui est tellement transversal dans toutes les périodes j'en suis persuadé.
Et on est dans la période dans laquelle le tatouage, c'est fashion, tu vois, c'est tout. Mais ça l'a jamais été, en fait, avant notre période, ou en tout cas, on n'en a pas des traces, tu vois. On n'a que les traces, justement, que ça soit les voies guerrières, la spiritualité, la transcendance. On n'a que des traces comme ça, des tatouages d'antan, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a cet aspect-là, tu vois. On n'a pas de, je sais pas, on n'a pas de traces que les tatouages, c'était pour le fashion, tu vois. Il n'y avait que ce rapport au corps qui était un peu plus profond, quoi, que celui qu'on a nous, où on pourrait se faire tatouer la tête de Mickey sur le ventre et garder ça à vie et sans se poser trop de questions.
Ouais, non, mais c'est vrai. Mais après, je ne rejette pas... En fait, le tatouage spirituel fait partie intégrante de moi et de ma façon de me faire tatouer, de ma vie. Mais par contre, je ne rejette pas le tatouage esthétique. Moi, personnellement, j'ai des tatouages esthétiques. J'ai un irezumi, donc un tatouage japonais, un tatouage de type un peu yakuza sur la cuisse et la fesse. Je l'ai pas fait pour son pouvoir religieux, hein. Je l'ai fait parce que j'ai toujours voulu en faire un, que j'ai toujours vu des tatouages de yakuza avec ces grands ensembles qui font toutes la jambe, le torse, etc. Et je me suis dit, j'aimerais avoir un truc un peu dans ce style-là. Pas autant parce que je veux pas, mais je veux quand même avoir une grosse pièce. Et j'ai une grosse pièce là-dessus qui n'est pas encore terminée, qui va être terminée quand je reverrai mon tatoueur japonais. Mais là, c'était juste incroyable. Par exemple, même ce tatouage esthétique en était une expérience, parce que le mec, en fait, je lui ai parlé sur Insta 10 minutes et Je le connaissais en fait déjà. Et en fait, le gars m'a fait le dessin du tatouage à main levée sur la peau. Et après, il m'a tatoué. Pas de calque, rien du tout. Le mec, il me dit, oh, t'inquiète pas. Putain, t'imagines, tu lui dis, attends, je veux un tatouage, je lui dis ce que je veux dedans. Et il me dit, t'inquiète pas, je m'en occupe.
Et en plus, moi, j'ai vu le tatouage, il est énorme.
Et là, tu dis, attends. Et là, t'es en caleçon, au milieu du salon de tatouage. Et puis, donc, t'es en caleçon en moitié relevé, voilà. Et puis, le mec, il te dessine sur la fesse, sur la cuisse. Et au début, il commence avec des grandes droites. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait?
Le stress.
C'est ça. Et une heure et demie après, tu regardes le truc, tu fais, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est complètement dingue.
Il est catastrophique, tu vois. On ne rejette pas l'un par rapport à l'autre, mais on essaie simplement d'exprimer que. Voilà, et comme pour toutes les choses, hein, y a toujours plusieurs volets, tu vois, d'une même histoire, tu vois. Et que le tatouage, c'est quelque chose qui pourrait être sympa d'explorer davantage sur ces autres aspects, comme là, le corps, le mouvement, tout ce dont on a parlé, le voyage, etc., tu vois. C'est qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs couches de lecture. Et c'est ça qui est beau, tu vois, chacun avec ses expériences arrive à en tirer certaines conclusions. Ouais, là, c'est mortel, là, ce petit passage sur les tatouages. Là, je sens que ça va éveiller pas mal de questions.
Bah, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que tu pourrais voir le voyage comme étant du pur divertissement. C'est clair, tu prends ton billet, tu vas passer 15 jours sur les plages magnifiques de la Thaïlande. C'est clair qu'elles sont complètement dingues, ces plages. Tu vas pouvoir faire des soirées, etc. C'est voilà, tu peux le voir comme ça, et j'ai envie de dire, on l'a tous fait, et moi j'ai fait quelques soirées, c'était comme ça, et c'était vraiment sympa, tu vois. J'ai fait du jet ski, chose que je fais jamais en France, et c'était sympa, c'est trop bien. Mais après, tu peux avoir une autre tranche de lecture, c'est-à-dire que je voyage, je me découvre, etc. Et après, tu as une tranche de lecture encore plus profonde où tu apprends à te découvrir et tu as envie de pousser la chose, c'est-à-dire que tu as envie de devenir une autre personne, et etc., etc. Et d'une chose simple, qui est de simplement partir dans un pays étranger pour des vacances, et ben ça peut devenir un moyen d'évoluer, et ça peut même devenir une façon de vivre. Parce que pour ma part, le voyage depuis 4-5 ans fait partie intégrante de ma vie, et c'est une des raisons qui fait que le matin, je me lève pour aller au travail. Même si c'est un travail de passion, même si j'adore faire ce que je fais, la récompense à la clé, c'est de pouvoir partir et voyager à ma façon, comme je veux, dans un pays étranger pendant 3 semaines à 1 mois.
Amen. Amen. Et écoute, mon Loïc, à la fin des petits podcasts, j'aime bien poser les 3 mêmes questions aux invités. Donc, tu vas pas échapper. Comme ça, ça permet aux gens d'avoir différents points de vue, différents outils qu'ils pourront aussi prendre chez eux. Et après, j'aime bien noter un peu ces outils-là, les mettre disponibles sur mon site. Et comme ça, les gens qui peuvent voir les podcasts à différents moments, peut-être les revoir, et ben ils ont accès aux conseils, aux différents thèmes, les différentes ressources dont on a parlé ici. Donc, on va commencer par la première question. Si tu devais offrir un livre à quelqu'un ou conseiller un livre, ce serait lequel? Moi, je choisis le livre, mais s'il y a d'autres formats, parce que tu n'aimes pas lire, tu peux prendre un film, un documentaire, peu importe. Mais si tu as un livre, ce serait lequel que tu conseillerais ou que tu offrirais, et pourquoi?
Alors, clairement, dans mon activité, avec tout ma façon de vivre, ma façon de coacher, etc., clairement, le bouquin que j'offrirais à quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est les 4 accords Toltec. Parce que ce bouquin-là, en fait, est une... c'est un peu une philosophie de vie, c'est un art de vivre. Et si on applique ces principes-là, la vie en serait beaucoup plus saine et beaucoup plus simple. Et donc tout le côté stress, tout le côté anxiété en serait grandement diminué.
Quand est-ce que tu as découvert toi, ce livre et à quelle phase de la vie tu étais ?
En fait, j'ai découvert ce livre, moi, quand j'étais en train de coacher, en fait, tout simplement. Et en fait, mon client, on parle, nanana, et puis mais je lui dis, ne prends jamais personnellement ce qu'on te dit. Elle a dit, ah, les quatre rapports Toltec. Je lui dis, c'est quoi ça ? Il me dit, tu connais pas ? Je lui dis, bah non, je connais pas. Et ben, bah, il me dit, bah tiens, c'est un bouquin, développement personnel, etc. Bah, tout simplement, je l'ai acheté dans la foulée. Je l'ai lu derrière. Et en fait, ce qui était assez amusant, c'est que beaucoup de conseils que je donnais par mon accompagnement, beaucoup se référaient à ce bouquin-là sans que jamais j'ai lu et que j'ai mis le nez dedans. Et en fait, j'ai trouvé ça assez incroyable parce que des choses, des principes qui me paraissaient essentiels dans le coaching, qui me paraissaient essentiels dans l'accompagnement pour permettre aux gens d'aller mieux, étaient déjà présents dans ce bouquin-là. Donc en fait, ça a été simplement la suite et la continuité pour permettre aux gens d'aller mieux, tout simplement.
On va passer à la deuxième question. Si tu devais laisser un message sur Terre après ton départ, que ce soit une citation, un mot, une phrase, quel serait ce message ?
Bah, c'est clairement la citation qui est inscrite sur moi. Vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre pour toujours. Parce que pour moi, c'est tellement essentiel, cette phrase, c'est tellement essentiel, surtout à l'heure actuelle où l'avenir est très incertain, où on se projette beaucoup dans un avenir un peu brumeux, arrête de te projeter, vis intensément chaque jour. Si on te disait, par exemple, que tu allais mourir dans 30 jours, certainement que tu vivrais différemment. Mais construis-toi de manière à être quelqu'un de meilleur chaque jour. Quand tu te couches le soir, qu'est-ce que j'ai pu faire pour être meilleur, pour avoir évolué par rapport au jour d'avant. Et pour moi, ces deux phases sont indissociables parce que si tu ne vis que intensément chaque jour, bah, tu ne progresses pas puisque, en gros, tu fais n'importe quoi. Et si tu cherches à trop vouloir progresser en tant qu'être humain, eh ben, t'en oublies de vivre intensément le jour présent.
Transition parfaite pour la dernière question. Quelle serait pour toi ta routine matinale parfaite ?
Ma routine matinale parfaite ? Ah. Après mon petit réveil tranquille, j'ai envie de dire ce qui est pour moi essentiel, c'est de pouvoir sortir, marcher dans la nature. Si tu as la possibilité, c'est juste incroyable. Tu ne manges pas, en fait. Tu te lèves, tu bois un verre d'eau et tu vas marcher dans la nature. Une demi-heure, 45 minutes, c'est très bien. Une demi-heure déjà, c'est magique. Ton niveau de stress redescend tellement. Tu es tellement apaisé, tu es tellement relâché, tranquille, que quand tu reviens, en plus, tu as une véritable faim qui vient. Pas une faim d'habitude, mais la faim parce que tu as envie de manger et de nourrir ton corps. Tu auras nourri ton esprit juste avant, et j'ai envie de dire, c'est parfait. Tu te lèves une demi-heure plus tôt le matin, tu enclenches ça, mais derrière, tu as une journée, tu commences ta journée en étant calme, détendu, en ayant nourri ton esprit, nourri ton corps, mais c'est parfait.
Et qu'est-ce que tu fais pendant cette marche ? Est-ce que tu laisses ton esprit vagabonder ou tu essaies simplement de regarder autour de toi, comment tu abordes cette balade dans la nature ?
Bah, après, ça dépend si la personne a l'habitude. Quand tu connais un peu l'endroit, tu peux laisser ton esprit vagabonder. Pour moi, il ne faut pas lui mettre des contraintes. C'est-à-dire que si tu as envie de profiter, parce qu'aujourd'hui, il fait super beau. Aujourd'hui, les couleurs sont sympas. Tu te focalises. Si tu as envie de prendre une photo, je ne sais pas moi, d'une fleur ou d'un insecte. Voilà. Par contre, téléphone en mode avion, c'est une certitude pour ne pas être dérangé. Tu le fais. Si tu as envie de laisser partir ton esprit pour réfléchir sur des petits projets, pour voilà, préparer tranquillement ta journée, tu le fais. Le but, c'est pas se mettre de contraintes, c'est vraiment de le vivre à l'instinct et de pouvoir en fait utiliser ce moment comme étant un moment exceptionnel. De commencer ta journée par un moment exceptionnel, c'est juste magique.
Waouh, magnifique. Commencer ta journée par un moment exceptionnel. C'est pas beau ça. Je pense qu'on va finir. Non, mon Loïc, je crois qu'on fera pas mieux que ça. Hein. On pourra pas aller plus haut que ça. Je pense que là, si on s'arrête là-dessus, on laisse les gens sur des belles ondes pour reprendre leurs activités après l'écoute de cette belle conversation. Donc, un grand merci à toi, mon Loïc. Hein. Un vrai plaisir.
Bah, merci à toi de m'avoir invité. Ça, notre rencontre qui fut très récente et encore exceptionnelle, et à chaque fois qu'on discute ensemble c'est des conversations qui sont riches et pleines de sens et très intenses émotionnellement, donc c'est un plaisir.
Gratitude, merci mon Loïc, tu m'as régalé. Des bisous à tout le
monde. Merci à toi
pour écouter et à très bientôt. Oh oui, une merveilleuse conversation, riche en couleurs, une conversation colorée avec Loïc Dia. Donc j'espère que ça vous a plu, merci encore d'avoir écouté. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par commencer à vous développer physiquement et commencer votre aventure vers une plus grande autonomie physique, qui par la suite pourra être le premier vecteur vers le développement des autres dimensions de votre être, eh bien, n'hésitez pas à aller sur mon site et récupérer votre routine de mobilité spéciale confinement, une routine de mobilité entièrement gratuite qui permet d'adresser la mobilité, donc la souplesse en gros, de toutes les articulations. Et ça va être une première routine, un premier exercice pour vous permettre, en 15 minutes par jour, sans équipement, au poids de corps, à la maison, de petit à petit vous sentir déverrouillé, de plus en plus souple, enlever les raideurs et les douleurs. Et puis, voilà, simplement commencer votre développement vers le mieux bouger et vers le mieux vivre. Donc vous pouvez retrouver le lien de cette formation dans la description du podcast. Et comme d'habitude, vous allez avoir le lien sur une page de mon site dédiée à cet épisode dans lequel vous allez retrouver les ressources, les liens, tout ce dont on a parlé, les notes pour avoir un accès direct à tout ce dont on a parlé, les différents ouvrages et aussi une petite section dans laquelle vous allez pouvoir connecter avec Loïc et les différents projets dont il fait partie. Donc voilà, je vous laisse ça dans la description. Encore une fois, merci les Movers pour votre attention. Abondance, gratitude et bienveillance. Ciao, ciao.